Cube Radio.
Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi 28 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. À midi, on aura Benoît Morin pour parler de ce qui se passe en pharmacie. On a un collègue qui a attrapé la COVID en revenant bien bronzé, intégral de Cuba. Et il paraît qu'il a fait le tour de 4 pharmacies pour avoir une petite boîte pour se tester dans les orifices. Donc, on va savoir ce qui arrive avec ça et les médicaments et de nouvelles fonctions aussi pour les pharmaciens. Et aussi, à 1h, je vous l'annonce, là, c'était dans le Metlands, les grandes nouvelles pour 2023. Il y aura un nouveau service de taxi aérien à Montréal, entre autres. C'est une compagnie montréalaise qui fait affaire avec une compagnie du Texas. Et là, on va pouvoir prendre 4 passagers, un pilote, prendre un taxi aérien pour se promener puis éviter les congestions. Ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Tout d'abord, Éric Duhaime est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhaime, bonjour.
Bonjour, c'est Dutrisac.
Alors, d'abord, vous l'avez pas envoyé votre lettre à Nathalie Roy encore, la présidente de l'Assemblée nationale?
Parce qu'elle n'est pas encore élue. Elle va être élue demain matin, donc on va...
On attend mardi.
On va attendre qu'elle soit officiellement en fonction, mais oui, on l'a rendu public hier. On va faire parvenir une lettre là, pour réclamer là, 3 choses spécifiquement à la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale en vue de l'ouverture des travaux demain à l'Assemblée nationale.
Ces 3 choses étant...
La première, c'est qu'on puisse continuer à faire des points de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est qu'on dispose d'un bureau pour accueillir les groupes là, qui viennent rencontrer les différents partis politiques. Et la troisième, c'est de pouvoir participer aux huis clos quand il y a des dépôts de rapports ou de budget. Il y a toujours des huis clos pour nous briefer un peu d'avance. Donc, on veut continuer à avoir ce privilège-là. L'idée, c'est en fait d'avoir exactement ce que j'avais avant le 3 octobre. Donc, à l'époque, j'avais convaincu une seule personne de se joindre à nous.
Ouais.
C'était Claire Samson. Là, on a convaincu 530 000 Québécois de voter conservateur le 3 octobre. Puis ma carte d'accès est même plus valide. Je peux même plus rentrer dans l'Assemblée nationale. Il y a un non-sens démocratique. Il faut corriger ça. Puis on en appelle à la présidente de l'Assemblée nationale pour réparer ça.
Là, vous avez l'appui de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Est-ce que vous avez l'appui de Gabriel Nadeau-Dubois ou Marc Tanguay ou même la CAQ?
J'ai contacté tous les partis. Je leur avais d'ailleurs écrit il y a 2-3 semaines à ce sujet-là. Je leur ai tous parlé. Ils ont tous démontré une ouverture. On a tous convenu ensemble que c'était mieux de le faire par la présidente de l'Assemblée nationale parce que c'est une personne qui est par définition non partisane puis qui doit s'élever au-dessus de la mêlée puis qui est un peu la gardienne de la démocratie. Donc, tous les partis étaient d'accord pour que la demande chemine vers le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale là, pour régler ça.
OK, mais pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, s'affiche publiquement puis il dit « Moi, je suis d'accord avec Éric Duhaime, je suis d'accord avec ses revendications, mais les autres peuvent pas le faire. »
Mais ils peuvent le faire. Là. Je sais pas
ou ils ont décidé de pas le faire.
En tout cas, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait, mais je comprends que ils vont pas s'objecter. En tout cas, quand moi je leur ai parlé, là, ils sont pas objectés, mais ces affaires-là, faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'on ne l'a pas tué. Là. Des négociations, là, c'est fragile tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'entente finale. Donc, je vais les laisser parler eux-mêmes, mais j'ai confiance là, qu'au cours des prochaines heures, là, ce problème-là va être réglé. Parce que c'est, faut le rappeler à tout le monde, là, ça n'a pas rien à voir avec le Parti conservateur du Québec. Là, c'est juste que l'élection du 3 octobre, c'est l'élection qui a créé la plus grosse distorsion démocratique de l'histoire du Québec. On n'a jamais vu ça qu'un parti à 13% et qu'il n'y a pas d'élu. On n'a jamais vu ça qu'un gouvernement ait été élu. Pensez-y, là, la CAQ a eu moins de votes que le Parti québécois, que nous et Québec solidaire réunis, alors que les 3 partis, on représente 11% aujourd'hui des députés à l'Assemblée nationale, puis la CAQ a 90 députés. Il y a quelque chose là-dedans qui est une grosse distorsion. Et le parti au pouvoir puis la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont comme devoir de s'assurer là, que la voix de tous les Québécois soit entendue. Et c'est pour ça qu'on fait cette réclamation-là aujourd'hui.
Quand j'ai lu, Éric Duhaime, distorsion démocratique, là, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, oh non, il va pas tomber dans l'espèce de discours à la Trump où on ne reconnaît pas la valeur des élections, on remet en question les élections. C'est pas ça que vous faites, là?
C'est le contraire. Ce que je suis en train de dire, là, c'est que chaque vote compte. Et là, ce que le message qu'on est en train de recevoir, c'est qu'il y a 1,5 million de Québécois que leur vote compte pas.
Ouais.
Puis on veut s'assurer que chaque vote compte. On veut que les gens aient confiance dans nos institutions démocratiques. Dire à 530 000 Québécois, là, ça n'a absolument rien donné que voter pour le Parti conservateur du Québec. Ça sera envoyé un très mauvais signal. D'autant plus que, vous le savez, le taux de participation au Québec est en chute libre. À toutes les élections, là, les dernières élections qu'il y a eu, le taux de participation descend. Moi, je pensais que l'arrivée du Parti conservateur, le fait qu'il y a plus de partis, on allait avoir moins de gens qui allaient bouder les urnes. Or, on se rend compte que ça continue à déraper. Puis plus les gens sont jeunes, moins ils votent. Il y a vraiment un problème. Puis il faut qu'on donne aux gens le goût de voter, pas des raisons puis des excuses pour pas qu'ils aillent voter puis qu'ils se disent que les élections, c'est un piège à con.
Mais là, vous parlez pas de proportionnel, là?
Non, ça c'est un autre débat. Okay? Faut bien préciser, là, faites bien de le souligner, il y a une différence entre une réforme parlementaire et une réforme du mode de scrutin. La réforme du mode de scrutin, là, c'est quand on parle d'ajouter un élément de proportionnalité dans le vote. Ça, c'est un autre débat. Puis, d'ailleurs, demain, il va y avoir une manifestation devant l'Assemblée nationale qui est organisée par des associations étudiantes et le mouvement Démocratie Nouvelle à ce sujet-là. Ça, c'est une chose. Là, ce dont on parle, c'est la réforme parlementaire. Parce qu'au Parlement, il y a des règles, des us et coutumes. Et il y a, par exemple, là, vous avez vu, là, pas juste moi, là, le Parti québécois aussi s'est plaint là, la semaine passée, parce que même s'ils ont eu plus de votes que les libéraux, ils n'auront même pas droit à avoir une question par jour, alors que les libéraux vont en avoir 6 ou 7. Mmh. Donc, ça, c'est la réforme parlementaire, là, où quand t'as pas 12 députés ou 20% du vote, c'est les autres partis pratiquement qui décident de ton droit de vue ou de mort.
Mais c'est quoi l'attitude de la CAQ? Parce que c'est une nouvelle réalité, là, Éric Duhaime. On est passé de 2 partis à 5 partis. Puis là, faut que tout le monde s'ajuste, s'impose de nouvelles règles. C'est quoi l'attitude, là? Je parle pas des décisions, mais juste l'attitude du gouvernement Legault.
Ben, c'est sûr qu'eux, ils ont le gros bout du bâton, là. Ils arrivent pas là en négociant, puis en disant, là, c'est mon Dieu, si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est ça qui est malsain, en fait. C'est qu'on donne le pouvoir à un parti, puis là, je veux pas blâmer le gouvernement Legault plus qu'un autre, là, mais c'est qu'il y a des partis qui ont des intérêts partisans, c'est normal, c'est comme ça en politique, et malheureusement, on donne à des adversaires politiques le droit de vie ou de mort sur des gens qui viennent de combattre dans une campagne électorale. C'est ça qui est un peu absurde. Mais en même temps, je pense que tout le monde comprend que l'opinion publique a pas beaucoup de sympathie pour des partis là, qui jouent les goons au lendemain d'une élection, puis qui essayent de faire taire toute forme d'opposition, puis qui essayent de nier le vote de gens qui étaient contre eux. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à bien s'entendre. Puis nos demandes à nous là sont très minimales. J'ai dit que j'aurais pu demander de l'argent. Là, tout le monde a eu de l'argent, sauf nous autres. Les libéraux, ils ont eu 4,5 millions. Le Québec solidaire a eu 2,4 millions. Le PQ a eu 570 000 piastres. Nous autres, on n'aura pas une scène là, pour notre recherche, pour nos communications. Fait que moi, je demande des choses qui ne coûtent pas un sou aux contribuables.
Ouais.
C'est le minimum. Donc, je pense que ça, on va être capable de s'entendre.
En même temps, là, tu dis, tu sais, il y a comme une façon de procéder depuis le début des temps. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu vas aux Olympiques, il y a 3 médailles, hein, d'argent, de bronze, d'argent, d'or, argent et bronze. Là, tu dis, on ne va pas créer une médaille en plywood puis une médaille en plastique pour la quatrième. Place, la cinquième. Tu sais, c'est qu'à un moment donné.
C'est ça, je comprends.
Tu sais, les règles sont là. Puis en même temps, les règles ne sont pas coulées dans le béton non plus.
Non, mais c'est les règles ont été faites alors qu'il y avait 2 partis. Vous l'avez dit tantôt, là. Aujourd'hui, il y en a 5. On n'est plus dans le monde là, où c'était bleu ou rouge. Là. C'est plus là.
Ouais.
On n'est plus dans des débats entre le oui et le non. Là. On n'est plus là. Donc, il faut que la réalité s'ajuste. La réalité de nos règlements soit tienne compte de la réalité politique. Les électeurs ne votent plus comme ils votaient il y a 60 ans. Il va falloir que notre système s'adapte. C'est normal, là. Fait que c'était pas coulé dans le béton à vie plus 100 ans, cette affaire-là. Là. Ça a même été revisité dans les années 70. Ça a été revisité dans les années 80. Il n'y a pas de raison pour qu'on le referait pas aujourd'hui. Puis ce qui est grave, là, c'est que nous, au Parti conservateur, vous le savez, on a des idées qui sont différentes. Quand il va arriver un débat sur l'exploitation, par exemple, du gaz puis du pétrole au Québec, je vous dis pas qu'on a l'opinion nécessairement de la majorité, mais on a une opinion qui est largement répandue au Québec puis qui a le droit d'être entendue aussi à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Mmh. Quand il est question, il y a plein d'enjeux
mais
que le Parti conservateur est différent.
Mais quel est l'intérêt de Gabriel Nadeau-Dubois à vous aider?
Ben, son intérêt, d'abord, c'est de démontrer qu'il est capable de s'élever au-dessus de la petite partisanerie. C'est démontré aussi, puis À long terme, là, on ne sait jamais. Hein, le Parti québécois, rappelez-vous, là, moi, je m'en souviens, tantôt, je voyais Mario Dumont, là, qui avait très, très raison de le rappeler, là, parce que j'étais avec lui à cette époque-là. Le Parti québécois était le plus anti-réforme parlementaire parce qu'il voulait empêcher là, l'ADQ à l'époque, ensuite Québec solidaire, d'avoir leur place au soleil à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont ceux qui réclament le plus une réforme du mode de scrutin et une réforme parlementaire. Pourquoi? Parce que autant avant ça, ça les avantageait les règles qui sont là, autant aujourd'hui, ils sont les perdants de ces règles-là. Mmh. Donc, tu sais jamais d'une élection à l'autre dans quelle position tu vas te trouver. Fait que je pense que tout le monde a intérêt là, à agir en bon démocrate dans ce dossier-là.
Et si on refuse vos demandes?
Oui, ben là, c'est ça. Si jamais Mme Roy décide de ne pas donner, de ne pas répondre à nos demandes, on va continuer à mettre de la pression. Je vais continuer à avoir des gens là, de différents horizons. Vous l'avez vu, là, Françoise David, l'ancienne co-porte-parole de Québec solidaire, qui est sortie pour nous appuyer. Vous l'avez mentionné tantôt, chef du Parti québécois actuel, Paul Saint-Pierre Plamondon, est sorti. Jean-François Lisée, l'ancien chef péquiste, est même sorti pour dire que je devrais avoir un siège à l'Assemblée nationale, un 126e siège pour un chef de parti qui a plus que 10% une élection et qui n'est pas représenté au Parlement. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, je vais faire un live demain soir sur les réseaux sociaux avec lui. On va continuer à interpeller là, des personnalités qui ne sont pas des conservateurs, mais qui sont d'abord et avant tout des démocrates là, pour mettre beaucoup de pression, parce qu'on ne peut pas accepter ça, là, ça serait un précédent qui serait beaucoup trop à risque. On ne peut pas empêcher plus qu'un demi-million de personnes d'être entendues à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose, ça va contre la raison d'être de l'Assemblée nationale qui est de représenter le peuple.
OK. Dernière affaire avant qu'on se quitte à Éric Duhaime, là, dites-moi la vérité, là. OK? Oui. Avez-vous tenté de recruter des élus d'autres partis?
Oui, puis je vais continuer à le faire. J'ai toujours dit que ça fait partie pour nous d'une stratégie. On veut attirer une nouvelle classe ensemble. J'ai parlé à quelques députés, puis je vais continuer à le faire dans les prochains mois. J'aurais pu faire comme les autres, puis cacher ça, puis pas en parler, puis dire non, puis le faire en toute la couverture. Moi, j'ai décidé de le faire de façon très ouverte, très transparente. Vous savez, comme moi, que dans les autres partis politiques, il y a des députés à l'heure actuelle qui sont pas satisfaits. Puis moi, j'essaie de voir si on peut avoir des affinités, si on peut travailler ensemble. Puis j'ai confiance que d'ici un an, on va avoir un député qui va traverser. Ou sinon, il y a aussi des élections partielles qui peuvent avoir lieu, comme vous l'avez vu. Donc ça aussi, ça peut... Tu sais, la politique, ça change vite, là. L'élection a eu lieu, ça fait même pas 2 mois. Ouais. Il y a déjà une chef qui est plus là, qui va annoncer dans 2 jours qu'elle démissionne comme députée. Il y en a une autre qui était élue sous une bannière, qui est rendue indépendante. Je veux dire, ça change très, très vite, la réalité politique. Donc j'ai confiance que ça va changer en notre faveur au cours des prochains mois.
Mais là, on s'entend que vous n'êtes pas allé recruter à Québec solidaire, puis au Parti québécois, ils sont 3, fait qu'il reste le Parti libéral.
Monsieur Dutrisac, vous seriez surpris parce qu'on avait des candidats, rappelez-vous, qui étaient des anciens candidats de Québec solidaire aux dernières élections. La politique aussi, ça a ça d'étrange.
OK, fait que je pose même pas la question, là, genre qui, parce que c'est sûr que vous n'allez pas répondre.
Mais c'est sûr que ça va être des insatisfaits, là. Tu sais, les gens qui sont hyper satisfaits et qui viennent d'avoir des gros postes, là, c'est c'est eux qui veulent traverser, là.
Pas Bernard Drainville, il ira pas au Parti conservateur.
Il y a des gens qui attendaient des nominations, qui attendaient des nananes puis qui les ont pas eues, puis c'est sûr que ces gens-là sont pas contents. Puis aussi, il y a un aspect idéologique, puis j'espère que ça va être ça aussi, là. Je veux dire, le gouvernement a fait des grosses promesses. Il y a des choses sur lesquelles ils livreront pas. Il y a des gens qui vont être déçus, puis par principe, vont aussi dire là, ça marche plus, puis l'élastique a été trop tiré, puis ça va péter. Ça aussi, ça peut arriver. Là.
Parfait. On va suivre ça. Ça se passe demain. On va voir la réaction de Nathalie Roy, la nouvelle présidente demain de l'Assemblée nationale.
Premier test.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. À la prochaine.
Merci à vous. Toujours un plaisir. Au revoir.
Nicole Gibault.
Une chronique judiciaire.
Madame la juge.
On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
La rencontre Gibault-Trisac.
Présentement, 11h17, pile poil. Nicole Gibault, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Non, c'est parce qu'on m'a dit, là, Éric Duhaime doit quitter pour 11h16. Mais j'étais à 11h16:48. Fait qu'en théorie, je suis correct. Bon, en tout cas. c'est ça. Il y a encore des sujets dans l'actualité, Nicole, que tu veux aborder. Entre autres, cette erreur de la DPJ.
Ça, je trouve ça terrible, absolument terrible au niveau de la sécurité. Cette dame-là, évidemment, elle était devant le tribunal. Elle avait une petite bulle. Et c'est ça que je trouve important, là. Elle vivait en se sentant protégée. Et aujourd'hui, malheureusement, cette bulle-là a été éclatée, là. Alors, parce qu'elle a appris que son conjoint sait maintenant, par une erreur qui a été glissée dans une, bon, peu importe, là, une missive, un courriel ou quelque chose, ça a été glissé et on a donné l'adresse à son ex-conjoint. C'est une erreur qui peut avoir des conséquences, puis on sait, là, ça pourrait être fatal. Alors, dans ces circonstances-là, je pense qu'il faut vraiment faire extrêmement attention parce qu'on ne peut pas, évidemment, mettre la vie de cette dame, de l'enfant, etc., ouais, là, en danger pour une erreur. Je comprends que les erreurs peuvent arriver, mais c'est impardonnable. Ça devrait... Je veux dire, c'est tellement sensible, ce genre de dossier-là, que c'est la première chose qui devrait être vérifiée.
Mais penses-tu qu'il y a eu un débriefing à la DPJ? Parce que là, on va te dire, là, on veut pas de chasse aux sorcières, on veut pas trouver de coupable. Tu sais, au Québec, là, moi, ça fait des années que j'entends ça. Dès que quelqu'un échappe le ballon, de façon sérieuse, « Ah non, on veut pas de chasse aux sorcières, on veut pas de quoi. » Non, mais on veut pas que ça se reproduise non plus.
Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une chaîne de personnes et de départements, puis de ci, puis de ça, puis c'est pas pour excuser ces gens-là, au contraire, mais c'est impardonnable, c'est quelque chose qui jamais ne devrait arriver, jamais, jamais, jamais. Si on vérifie une fois, il faut vérifier 10 fois pour être sûr.
Ouais.
Parce que c'est même pas une possibilité de faire une erreur de cette... La Cour supérieure avait ordonné... tu sais, c'est quand même très sérieux, là, dans une question de devant la Cour, là, supérieure à ce moment-là, avait ordonné que son adresse soit confidentielle. C'était clair, net et précis. Et tu peux pas dire, la DPJ ne pourrait pas dire qu'il était pas au courant, là. Je veux dire, c'était une ordonnance de la Cour quand même, là. Alors là, faut tout quitter. L'enfant, là, ça ne tente pas.
Ben non.
Ça ne tente pas de quitter. Alors non seulement c'est un danger, mais on perturbe encore une fois. L'enfant a-t-il vraiment besoin de ça encore, ouais, une fois?
Tu vois,
c'est désolant.
Nicole, Florence me dit qu'ici on a essayé d'avoir Lionel Carman en entrevue sur ce sujet-là. Puis là, on répond, ils commenteront pas. Là, il faudrait, ouais, pas, ben, que la CAQ, okay, devienne ça, là, devienne une espèce de gouvernement opaque, là, puis quand c'est le temps de prendre la parole, puis de dire, bon, ben oui, il y a un problème dans ce département-là, on va y voir. Là, il se cache, puis il dit, oh, je préfère pas parler.
Là, ouais, on va, mais je sais, je comprends, là, au niveau journalistique, puis au niveau de la population qui veut le savoir. Mais quand on parle d'erreur, là, moi, ça allume tout de suite, là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pense à une poursuite, là, quelqu'un les a mis en garde, parlez pas. Vous savez pas à quoi vous attendre, tout d'un coup qu'il y a une poursuite, si vous allez dans les médias. Bon, alors, est-ce que c'est une possibilité? Peut-être qu'il devrait avoir un comité pour répondre à ceci de façon... Tu sais, juste pas, juste la réponse que tu viens de donner, peut-être pas, là, mais il y a certainement pas du détail, là, mais certainement, non, on va s'en occuper.
C'est
on
ça,
va,
exactement.
On va tester quelque chose.
On est conscient du dossier, puis on vous revient avec une enquête, là, avec une décision.
On vous revient avec quelque chose.
On veut pas 10 coups de fouette, là, on veut juste, tu sais, faites attention, là, puis on veut que le message se rende. Il y a un homme de Matane qui devra porter un bracelet anti-rapprochement.
Bon, enfin. Alors, mais je te garantis que j'ai fait des recherches. C'est pas... Il n'y a pas une pluie de bracelets électroniques, là. ça pas... Même si ça a été implanté, je suis retournée voir un peu. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été implantés. Puis surtout, mais c'est parfait, ça. On est très, très, très heureux de le voir. Puis je pense... Mais c'est un excellent filet de sécurité. C'est pas le seul, puis c'est pas le seul moyen... Parce que faut vraiment penser là, que c'est relié à un système qui va faire, bon, qui est avec Internet, etc. Mais c'est parce que dans les régions éloignées, il y a, puis même en ville, là, des fois, là, ça fonctionne pas toujours, ce système-là. Ça fait que j'ai compris que les gens qui s'occupent de dans ce milieu-là sont un peu inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas. On n'a pas de résultat. Mettons qu'il y en a 4, 5, 6, j'ai aucune idée du chiffre exact, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, depuis qu'on a implanté ceci? Parce qu'il y avait un programme, là, on l'avait implanté à telle place, puis on a accepté d'en mettre je sais que d'en donner, je pense que c'est sur dans la main, tu sais, sur le bout des doigts, là, quelques-uns seulement. Et je sais qu'à un moment donné, on l'a réclamé devant un juge, mais le juge a gardé la personne détenue pour besoin de bracelet. On a évité le port d'un bracelet, mais ça, c'est correct pour la sécurité aussi, là, de la dame. Mais qu'est-ce qui arrive quand il porte? Est-ce que ça a été ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a eu des lacunes?
Est-ce qu'il
y a eu quelque chose?
Est-ce que
c'est efficace?
C'est ça, hein?
Ça serait bien, bien intéressant d'avoir un peu plus de développement. Moi, je serais curieuse de voir où s'en est rendu ceci. Est-ce que quelqu'un fait un rapport là-dessus? Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que je vais pas tout regarder, évidemment. Mais à ma connaissance, ce que je lisais, là, c'est ce que les gens disent sur le terrain qui s'occupe des maisons pour femmes battues. Là, c'est oui, c'est bien bon. On est très heureux pour pioler tout le temps. Là.
Non, mais tu sais...
Dites-nous ce qu'il y en est un peu, là.
Mais je pense à ça, là. Tu sais, pour créer un froid, là, ou pour régler des affaires, t'offres un bracelet anti-rapprochement à Noël à quelqu'un, tu sais, juste pour lui envoyer le... Non, c'est correct. Je me dis, ça ferait un drôle de cadeau.
Ils vont probablement les sortir d'un magasin de jouets, peut-être.
À commander sur Amazon. Un bracelet anti-rapprochement pour le beau-frère qui est mouche à mort quand il prend un coup. Alors, il y a deux autres blâmes retenus contre la juge Descoteaux.
Ben oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec... honnêtement, je connais pas, là. Je lisais ça, puis je me disais, voyons, c'est parce que, tu sais, quand tu es rendu à trois blâmes, là, c'est pas rien dans les circonstances, et je pense que c'était aussi un problème ici qui a été très important, là. Elle a, malheureusement, ordonné, puis c'est presque ordonné, là, ben c'est le cas, à un individu qui s'est présenté de dévoiler ce qu'il faisait. Or, c'est un agent d'infiltration. Et la règle première, puis ça, tout le monde sait ça, là, tu ne peux pas percer cet anonymat, tu ne peux pas essayer de savoir c'est qui, puis qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi. Alors, dans ces circonstances-là, la juge, malheureusement, est allée demander trop de questions, a insisté, même si on avait dit non, c'est dangereux, là, attention, tous les procureurs l'avaient mise en garde. Et je pense qu'ils ont été le conseil de la magistrature a été assez direct là, dans cette enquête-là en disant que la juge outrée de l'attitude du témoin, parce qu'elle disait qu'il voulait pas répondre, évidemment, c'est un agent d'infiltration. Elle aurait perdu sa sérénité. Et bon, mais regarde, là, ça fait trois blancs, là, je sais pas où est-ce que ça va aller, là, mais on commence à les accumuler, puis c'est pas quelque chose qu'on veut voir. C'est très malheureux.
Ouais.
Pour encore une fois, le système de la justice, on n'a pas besoin de ça, non.
Et la juge Descoteaux pourrait se mettre au décaféiné. Ça peut-être ça aiderait, tu sais, pour juste pour rester calme. Madame Gibault, merci. On se reparle demain.
Merci du Trisac. À demain.
Salut.
Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Je vais essayer de t'aider.
Conoscopie, la comédie musicale.
Benoît Dutrisac.
Je m'en occupe, Richard.
Ben oui.
Mets ton doigt sur la bande négative.
J'ai rien à cacher, moi, je suis transparent.
Ouais. Richard Martineau.
Il devrait prendre exemple sur toi.
La rencontre.
Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques.
Moi, j'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème?
En étant gentil.
La rencontre Martineau Dutrisac.
Je m'attends à y coucher sur ton testament.
Non.
Tu m'as dit la semaine passée, t'es allé au Salon du Livre.
Oui.
Moi, je suis allé vendredi.
T'as vu? Y avait-tu du monde?
Pas tant. Il y avait du monde, mais pas tant. C'est le fun. J'ai beaucoup aimé ça, le Palais des Congrès, pour le Salon du Livre. Je trouve que c'est aéré. Je trouve ça mieux que Place Bonaventure. Une entrée près du Toquet, puis une entrée près de la sortie de métro.
That's it.
Et là, t'as des chars de police, t'as de la GRC assis sur son cul. Il y avait trois policiers à une lumière qui jacassaient, puis qui jasaient, puis qui riaient. Leur véhicule roulait. Le véhicule roule, là. Tu sais, Mme Plante, là, l'environnement, puis on va être à... Tu sais, on reçoit une conférence sur la biodiversité, puis les policiers sont là, puis les chars roulent. Le moteur roule. Et là, il n'y en a pas un pour aider. Ils ont fermé toutes les sorties, sauf deux. S'il arrive...
À 2 kilomètres de distance. Là, les sorties sont très loin l'une de l'autre. Là.
S'il arrive une urgence, là, les sorties sont bloquées.
Il y a un mur, il y a comme un mur tout le long.
3 mètres. 3 mètres, la clôture, j'ai vérifié. 3 mètres. Sais-tu quoi? Ça commence le 7 décembre.
Puis ils sont prêts déjà.
Le
là.
Salon du livre finissait hier ou aujourd'hui. Il me semble qu'il n'aurait pas attendu cette semaine. Il n'aurait pas attendu.
Il n'aurait pu.
Les stationnements étaient fermés.
Moi, à la place des organisateurs du Salon du livre, je serais en beau sacrament. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas allés, là, finalement. Ouais. Là,
ou ils ont viré de bord parce qu'il n'y a pas de place stationnée.
Il y en a-tu des livres? Je me suis promené et je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. Tu sais que j'ai déjà eu des hémorroïdes saignantes.
C'est vrai?
Ah, mon
Ça va-tu
Dieu.
Mieux?
Ça fait longtemps.
Ah oui?
Je vais écrire là-dessus, mes hémorroïdes saignantes et moi, parce que les livres, 90% des livres, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes. Des victimes.
Je pensais la même affaire.
Y en a-tu des livres de ça? J'ai eu un ongle incarné, j'ai eu une hémorroïde saignante.
J'ai écrit un texte pour la revue de l'année pour Jean-François Dumas, puis j'écris ça. Je dis, si vous voulez qu'on parle de vous, présentez-vous en victime.
Ouais, c'est incroyable.
Parce que vous êtes les seuls à avoir vécu de la discrimination ou de la malveillance ou juste des niaiseux pas fins ou des
cabochons. Il y a des gens qui ont été malades puis qui ont. Parfait
ça,
pour eux autres, bravo. Mais il y en a des livres. C'est des livres de recettes. Des livres. Je fais pitié.
Oui.
Je fais pitié.
J'ai été malheureux dans ma vie et c'est donc ça. Je suis une victime.
Ma mère m'a allaité seulement que du sein gauche.
Ouais.
J'ai jamais pu téter son sein droit.
Donc,
ce qui explique aujourd'hui.
Vote Québec solidaire.
Exactement. Et les gens qui votent Éric Duhaime, seulement sein droit.
Oui.
Tu comprends? Jamais de gauche.
Mais il y a comme cette mouvance-là, là, même dans les magazines, là, même dans les nouvelles. J'ai vécu. Ben, on a tous vécu des traumatismes. Tous, la gang. Là.
J'ai un mono-sourcil. J'ai un mono-sourcil. C'est sûrement un livre là-dessus. Là.
Deux fois, Richard, que dans un endroit public, il y a une personne qui me demande, une fois une infirmière, puis une fois un monsieur au promenade Saint-Bruno, qui me parle comme si j'étais le grand-père de mes enfants. Deux fois, c'est arrivé.
Ça, c'est le fun.
Traumatisme. Vraiment, là, je m'en suis pas remis.
Mais tu devrais écrire.
Mais non,
tu as été victime d'angisme.
D'angisme. Solide. Puis là, une autre fois, j'avais porté des chemises chez le nettoyeur. La jeune femme est là, elle regarde mon nom, elle ouvre mon compte, elle fait whatever. Je dis, pardon, whatever? M'a-t'en chier, moi, whatever? Un peu de respect pour les clients.
Les offres d'emploi interdites aux Blancs.
Ouais.
J'ai été victime de racisme. Voilà ton texte. Ton livre.
Ça.
Et aussi, il y a les livres ésotériques aussi. Y en a-tu de tout ça? Les livres ésotériques, là.
J'ai failli acheter le dictionnaire des rêves. J'ai failli acheter ce dictionnaire-là, puis j'ai fait « Ah, je vais regarder. » Non.
La mère de Sylvester Stallone devrait écrire un livre sur comment lire dans les lignes des fesses.
Oui, dans le craque de fesses, oui.
C'est ce qu'elle faisait. La rompologie,
en fait,
lire dans les craques de fesses.
Mais ça, tu lis le passé, tu lis pas l'avenir. C'est ça, là.
En tout cas, on m'a dit de quoi tu lis le présent en Christi.
Oui,
j'ai une idée fantastique pour désengorger le système de justice. Tu sais qu'ici, on est en mode solution tout le temps à Cube Radio.
Tout le temps, on veut aider.
Alors, si tu as commis un crime, mettons, tu vas à côté chez Archambault tantôt, tu piques 2 livres.
Non, je ferais pas ça.
Tu es un grand lecteur.
OK.
Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu piques 2 livres. Et là, tu te fais pincer par la police.
Non.
Sais-tu quoi? Plus de peine de prison parce que les prisons débordent. Tu vas aller planter des arbres. C'est ça l'affaire maintenant. C'est ça l'affaire. Je vais aller planter des arbres. C'est ça.
Mais
tu as trompé ta blonde, tu te fais pincer.
Je vais planter
chérie.
Un
Chérie, je vais aller planter une vingtaine d'arbres.
J'ai planté un voisin, je vais aller planter un arbre. C'est chic, ça.
Non. J'ai passé un sapin, m'en planté un.
Justin, en 2019, a promis 2 milliards d'arbres.
2 milliards d'arbres.
On pourrait contribuer, on pourrait aider.
L'année passée, il était à 8 millions d'arbres. L'année passée, même date, là, novembre 2021, 8 millions d'arbres.
Pas lui, il a les mains tellement fines.
0,04%, je pense, c'était.
Ah oui, ça se peut.
OK, là.
Et bon donc,
mais t'as vu les chicots? Pour les changeurs turcos.
Oui, les rognures d'arbres. Ouais, ouais.
Les changeurs turcos, on va planter des arbres.
Ils plantent des branches. Ils pensent que ça va prendre.
Mais c'est bientôt, le curé, en confession, c'est ça. Au lieu de deux juifs et le mari, tu vas aller planter 25 arbres.
Bon.
Ils vont avoir sa liste.
Pourquoi?
Chaque crime, mettons, je me suis touché, c'est 32 arbres.
Un frêne. Si tu touches à quelqu'un d'autre, un érable. C'est plus gros.
Ça serait génial. Il va y avoir des arbres partout. Alors, des chicots, des petits chicots Et là, comme Félix Séguin me faisait remarquer, la journaliste demande l'entreprise qui s'occupe des arbres, qui est censée les planter, puis sans s'en prendre soin. Visiblement, elle n'en prend pas beaucoup soin. Sans s'en prendre soin. Elle dit, c'est quoi la durée de vie de ces arbres-là? T'sais, ils vont mourir dans combien de temps parce qu'ils n'ont pas l'air d'être forts. Mm-hmm. Puis il dit, on ne peut pas vous le dire. Tu sais, c'est un secret. Parce que si on le dit, que va faire la Chine, les espions chinois, avec cette information de sécurité nationale?
Ils vont créer des arbres qui vont vivre plus longtemps.
Ils n'ont pas pu le dire parce qu'écoute, toute la sécurité du pays est en jeu là-dedans. Fait que là, tu regardes ça, on dirait que c'est la tête de René Lévesque. Tu sais, quand il avait une couette puis qu'il achetait, là.
Un comb-over.
Oui.
Oui. C'est bon. C'est comme ça qu'on travaille. Les woke s'attaquent aux singes. C'est quoi cette affaire-là?
Non, mais t'as vu, c'est plus la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé,
ouais,
ou ce que Gilles Proulx l'autre jour m'a dit, l'OSM. Pas vraiment.
L'Orchestre symphonique de Montréal.
C'est pas vraiment la même affaire.
Gilles
qui me dit l'Arabie saoudite aussi un jour. Mais je l'aime beaucoup, Gilles. Alors, il avait dit l'OSM, c'est pas la même affaire. Mais l'OMS a dit qu'ils vont arrêter de dire la variole du singe. Mmh. Florence me montrait ça tantôt. Ça va être le M-pox. M-M-pox. Parce que la variole du singe,
c'est
ça a l'air
ça,
que...
C'est pas ça, le M-pox. Le M-pox, c'est des maladies pulmonaires.
Ça va s'appeler l'M-pox. Appelle l'OSM.
Ben non, t'as des gros boutons qui coulent. C'est l'M-pox, c'est une des maladies pulmonaires.
Toi, tu t'y connais en gros boutons qui coulent. Moi, je sais que t'en as souvent.
Moi, je connais tout.
Je sais que t'en as régulièrement, les boutons qui coulent.
J'en cultive.
Mais écoute, bref.
J'en fais des salades.
Mais ça sera pas...
Arrête.
Le soir, regarde la télévision, puis t'as des ennemis, t'es pop.
Comme l'emballage en plastique.
Parce que ça a l'air que ça donnait lieu à des insultes discriminatoires. Le variole du singe. Est-ce que des singes se sont plaints? Est-ce que l'association des singes dit, Chris, pourquoi vous appelez pas ça la variole du lynx? Pourquoi tout le temps nous autres?
Ben ouais, pourquoi
toujours nous autres? Ils se mettent comme un singe, rusés comme un singe,
ça.
Ouais. Pourquoi?
Lait comme un cul de singe.
Ben oui.
Ça se dit aussi.
Gros comme un gorille.
OK. C'est bon.
C'est quoi la femelle d'un singe déjà?
La guenon.
Le guenon,
laine
comme une guenon.
Comme une guenon. Mais ça, c'est sexiste.
Tout le temps, les singes.
Ça. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas dire ça.
Attends une minute, j'avais autre chose, oui.
Quand tu me dis, attends une minute, là, c'est parce que là, ton hamster est en train de te rattraper.
Les troncs en plastique.
Oui. De quoi, ça?
Quand tu as des cours de premiers soins.
Oui.
Tu sais, donner des massages cardiaques, puis là, mettre ton oreille près de la bouche de la personne pour savoir si elle respire, puis donner la respiration artificielle. Puis bon, on te donne comme des troncs en caoutchouc qui représentent des individus, puis là, tu t'exerces, tu pratiques...
Le massage cardiaque.
Le massage sur le tronc.
Oui.
Il y a eu une étude... Je suis triste de dire ça, mais il y a trop de blancs dans les troncs en caoutchouc. Il n'y a pas de troncs en caoutchouc. Je te jure, je niaise pas. Le Daily Mail.
Le color est laid, c'est tout.
Les troncs en caoutchouc, il n'y a pas assez de noir et il n'y a pas assez de gros. Les troncs qui te montrent sont souvent minces.
Trop petits?
Minces, mais il n'y a pas des troncs de gros.
Des gros troncs.
Ça prend des gros troncs en caoutchouc. Des gros. Peut-être qu'ils ont fait mince parce que ça sauve de l'argent, ça coûte moins cher. Des gros troncs, ça coûte plus cher, mais ils disent que c'est pas la même chose.
Oui, mais je comprends pas parce que le massage vise le centre. Il vise le cœur, là. Il veut pas te masser les omoplates,
Est-ce qu'on masse différemment un noir qu'un blanc? Est-ce qu'ils ont le cœur différemment? Ça a l'air que c'est un gros, gros, gros problème dans le milieu de la santé, là. Attends une minute, là. Les troncs en caoutchouc, c'est blanc et c'est mince.
C'est pas ici, c'est pas au Québec.
Mais si on met, au Canada. Au Canada.
Ah oui?
Si on met des troncs en caoutchouc de gros, là, tu dis, il n'y a rien que les gros qui ont des crises cardiaques, c'est ça? Hein? C'est ça? Vous mettez un tronc de gros, on sait bien. C'est rien que les gros qui ont des crises cardiaques, gros patapouf, gros mangeux de soupe, plein de soupe, etc.
Grossophobie.
Alors, grossophobie? Alors, je ne sais pas, pense à ça. Tous les jours.
Est-ce que ça se peut que les problèmes.
Tous les jours.
Est-ce que ça se peut que les problèmes ne se règlent pas parce qu'on s'attarde à ces sottises-là? Est-ce que ça se peut? As-tu lu ce matin, je parlais de ça, là, Bernard Drainville, nouveau ministre de l'Éducation, qui parle d'une montagne haute et à pic, qui dit les gens le voient, là. Il dit les gens le voient, le défi. Tous ceux que je rencontre, parce que Bernard parle beaucoup de lui-même, là, moi et mon nombril, ils me disent hey boy, vous l'avez, vous, le ministère. Là, t'as un gars là qui parle de lui-même sans arrêt. Tu vas prendre une bouchée à la fois, puis le mammouth, puis le. Il parle pas des élèves, il parle pas des profs, il parle pas de comment on recrute pas les profs parce qu'on demande à des diplômés universitaires d'aller faire un autre 4 ans à l'université pour aller enseigner au lieu de donner une formation d'un an puis remplir les écoles. Et non, il parle de lui-même. Mais
j'espère qu'il prend des notes parce que dans 4 ans, il pourrait être au Salon du livre avec son livre. J'ai été ministre de l'Éducation et c'est dur.
Oui, je suis une victime.
C'est ça. C'était difficile.
Victime du système. Je suis traumatisé. Ah oui, ça se peut.
Et les troncs en caoutchouc, il n'y a pas beaucoup de troncs en caoutchouc de femmes. Mais cela dit, s'il y a des troncs en caoutchouc de femmes pour pratiquer des massages cardiaques, on va dire, hein, c'est ça. C'est ça, hein. C'est sexuel. Il veut poigner les totons. Ah ah! Donc, ah ah, on sait bien.
Est-ce que c'est lundi aujourd'hui?
Donc, on va mettre des. Damn if you don't. T'es-tu déjà obstiné avec un woke? Ils ont tout le temps raison. T'as toujours tort.
C'est comme les intégristes religieux. Tu peux pas parler à un intégriste religieux. Il parle au nom de Dieu, puis il parle pour Dieu et par Dieu. Fait que ça te donne rien. Fait que faut. Là, on est juste lundi, Richard. Donne-toi une chance.
Ça commencerait dans le
Christi. Je trouve un peu, là. Donne-toi une chance, là, pour te rendre jusqu'à vendredi. On rajeunit pas, là. Il faut prendre soin de nous autres.
Alors, ce soir, c'est revu et corrigé. C'est comme le bye-bye au rideau vert.
Ah oui?
Il y avait un gang sur moi l'année passée.
Qu'est-ce qu'il disait?
Il montrait comme un hystérique. Il voyait des woke partout. Je me levais. C'était comme un film de monstre. Puis c'était moi. Puis j'avais peur des woke. C'était drôle. C'était rigolo. Okay. C'est le fun. J'espère qu'il va y avoir un gang sur toi cette année.
Ben non.
T'étais-tu pogné dans un scandale cette année?
Non, moi, je m'arrange pour être en dessous du radar tout le temps. Ça m'intéresse pas. Il y a un tapis rouge, je marche en arrière. Ça m'intéresse pas. Je veux pas.
On est-tu en 2022 ou en 1980?
80.
Parce que t'as une veste shinée. Il y a une chemise shinée comme il y avait dans les années 80.
Ouais.
Reluisante.
Mais non, c'est nouveau, ça. J'ai acheté ça il y a comme 3 semaines.
Tu repars une mode.
Je pars la mode.
Est-ce que Mme Trisac, est-ce qu'elle se met des épaulettes? Aussi dans sa robe?
Et elle a des gros cheveux. C'est comme les années 80.
J'avais peur quand tu disais elle a des gros
cheveux. Non, pas. À demain. C'est.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Moi, j'ai un autre mot, contravention. Une solide, là. Puis en passant, là, tes amis policiers au Palais des Congrès, ils étaient 3 vendredi soir autour d'un feu de circulation à jaser. Debout à rigoler, alors que tout le monde faisait, tu sais, comme le sacramouille de détour, et leur voiture roulait pendant ce temps-là. N'est pas nous faire suer, là, avec l'environnement, l'écologie, Valérie Plante, là. Parle à ton nouveau chef de police, Fadi Daguerre, là, il descend du ciel, là, tout le monde l'admire. Mais là, peut-être dire aux policiers, fermez donc vos moteurs quand vous êtes là en train de niaiser au lieu d'aider les gens. Parce que là, toutes les sorties étaient fermées au Palais des Congrès. Ils attendent des manifestants. Ils ont mis une clôture de 3 mètres.
Je te dirais, les autopatrouilles, là, les policiers les partent quand ils commencent le chiffre, puis ils tournent la clé quand ils finissent.
Ah, mais ça dégage rien, ça. C'est juste de l'hélium.
C'est du parfum.
C'est du parfum, c'est ça, j'imagine. Bon, parfait. Puis une femme a disparu.
Ouais, la feel-good story de la journée. Écoute, une femme de 53 ans, portée disparue depuis 51 ans, qui a été retrouvée. Petit miracle de Noël qui arrive un peu avant le temps pour un couple du Texas.
Wow.
Melissa Highsmith, qu'elle s'appelle, elle avait 22 mois lorsqu'elle a été enlevée par sa gardienne en 1971. Il y a eu enquête policière, mais finalement, il n'y avait pas de nouveaux détails. Ça a été classé dans les affaires non résolues. Puis il y a quelques semaines, Melissa Highsmith, qui, elle, a été élevée sous le nom de Melanie Walden, elle a été élevée par sa ravisseuse, a décidé de d'inscrire ses informations sur un site spécialisé pour savoir, tu sais, tes origines, d'où tu viens. C'est comme ça qu'elle a pu être reliée à ses parents, qui vivaient dans la même ville qu'elle.
Mais elle ne connaissait pas son véritable nom.
Non, mais par des tests d'ADN.
Ah.
C'est
oh, 23 and Me, là,
oui,
les
oui,
affaires
oui.
de même.
C'est même, c'est ça, site-là. Je pense que ça va amener une certaine révolution. Il y a des gens, je pense qu'il y a des disparitions qui vont pouvoir être résolues ben oui. grâce à ça. Et elle a appris, justement, que ses parents vivaient dans la même ville qu'elle, que pendant 5 décennies, ils l'ont cherchée sans jamais pouvoir la retrouver. Et dans les derniers jours, ils ont pu, elle a pu retrouver ses parents. Évidemment, tu le comprendras, ça a donné lieu à des longues accolades et des larmes et tout ça. Puis, il faut savoir qu'aux États-Unis, après 20 ans, quand une personne est disparue depuis 20 ans, les chances de le retrouver en vie sont de moins de 1%.
Eh bien, elle vient de gagner le gros lot.
Ouais.
Bravo, content pour elle, hein, qu'elle retrouve
et
sa
pour
famille.
Pour eux, pour ses parents.
Pour tout le monde, ouais. pour le temps des fêtes.
Il n'y a pas de nouvelles pour la ravisseuse. J'ai regardé les sites américains et tout ça. On ne sait non. pas ce qui se passe avec elle.
Ouais. Kidnapper un enfant ouais. de 22 mois. Pas pire. Ouais. Maxime Dolan, merci.
Je t'en souhaite une bonne.
Dutrisac.
L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
Benoît Morin est avec nous, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Alors, on se tutoie parce qu'on s'est déjà croisés dans une vie antérieure. Là, on fera pas semblant. Là, on parle de... C'est autour des adultes de manquer de médicaments, Benoît, après les enfants. Là, rassure-moi, là, rassure tout le monde, il n'y a pas de pénurie de Viagra.
Non. Okay. Ça, il y en a en masse.
Okay.
Il y en a en masse. Puis dans les alternatives aussi.
Okay. C'est drôle, hein?
Problème. Mais je sais pas pourquoi.
Ah,
mais ouais, c'est drôle. Mais il n'y a pas de pénurie d'acétaminophène pour adultes ou de Motrin ou de ibuprofène pour adultes. Ça, on en a en masse. Il y a différentes compagnies qui en ont. C'est plus dans les produits pour le rhume, là.
Mais le rhume, la grippe, c'est la même affaire? Parce que moi, ce que j'entends, ouais. Benoît, c'est un rhume avec des médicaments, ça dure une semaine. Pas de médicaments, ça dure 7 jours.
C'est exactement pour ça que, personnellement, je suis pas stressé outre mesure parce que ces produits-là, c'est par exemple, on va parler des CIO pour la toux, Tylenol rhume, pas le Tylenol régulier ou l'extraform, mais plutôt la combinaison de décongestionnants d'antitussifs. Ça, ces produits-là, depuis le mois de mai dernier, c'est difficile d'avoir un approvisionnement soutenu. Cet été, on n'avait plus du tout, je dirais, dans l'ensemble des pharmacies du Québec. Après, c'est revenu, là, ça recommence à manquer. Mais c'est des produits qui nous servent à nous rendre confortables, diminuer un peu la toux, diminuer la congestion nasale, mais ça guérit pas, ça accélère pas, tu l'as bien dit, ça accélère pas la guérison. Et ça améliore pas les conséquences non plus. Là. Est-ce que je vais compliquer plus sans médicaments ou avec médicaments? Il n'y aura pas de différence.
Ah, ouais.
C'est vraiment pour soulager ces produits-là. Mais Tylenol pur, qui contient de l'acétaminophène, ibuprofène, ça pourrait être dramatique si ça en manquait, mais il n'en manque pas dans le moment. Et ce qu'on attend sous peu, là, c'est acétaminophène, ibuprofène pour enfants qui va arriver dans nos pharmacies à partir de demain surtout. Là.
Je me trompe-tu, mais je disais que ça venait de l'Australie, c'est-tu vrai?
C'est en partie vrai. Ce qu'on va recevoir dans nos tablettes pour ce qui est des enfants, ça vient des États-Unis.
Okay.
On reçoit 250 000 formats, à peu près 125 par pharmacie qui arrivent surtout du sud des États-Unis, je pense. Où ils ont moins de virus qui circulent. Pour ce qui est de l'Australie, c'est plus pour les produits hospitaliers, les grosses bouteilles qu'on va donner pour ceux qui sont pas capables d'avaler les comprimés, pour les préparations pour adultes. Ça va arriver de l'Australie. Mais nous, on va recevoir 2 envois. Un qu'on a déjà reçu des grossistes, mais qui arrive en pharmacie à partir de demain. Et un deuxième envoi dans une couple de semaines qui va arriver aussi des États-Unis. L'Australie, c'est pour les centres hospitaliers.
OK. Si les enfants font de la fièvre, puis on n'a pas accès à des médicaments, est-ce qu'il y a un moyen de les soigner là, pour atténuer les symptômes?
Il y a moyen de les soigner. D'abord, pour plusieurs d'entre eux, on peut partir des comprimés pour adultes en faisant des calculs assez précis, puis en écrasant les comprimés avec de la compote ou même du sirop d'érable à la limite, mais il faut que ça soit le bon dosage en fonction du poids de l'enfant. Fait qu'on a des solutions.
Okay.
Mais advenant qu'on veut pas utiliser ça, absolument, un enfant qui fait de la fièvre, il faut, même si on lui donnait du Tylenol ou du Tempra, faut bien l'hydrater. Faut lui donner, si la fièvre est trop haute, faut lui donner un bain tiède, pas froid, parce qu'on va avoir une fièvre rebond pour compenser l'espèce de froid que le corps va ressentir. Fait que ça prend un bain tiède, légèrement en bas de la température du corps. Ça, c'est fantastique comme résultat. Ça marche pour une heure ou deux au moins, donc ça va rendre l'enfant plus confortable. Faut pas l'habiller trop chaudement. Faut pas l'habiller et l'abrier trop chaudement.
Ouais.
Puis évidemment, il faut qu'il s'alimente aussi. Donc, un enfant qui fait beaucoup de fièvre n'a pas faim, mais sa situation peut se dégrader s'il mange pas suffisamment. Donc bien l'hydrater, bien l'alimenter régulièrement, même s'il mange pas un repas complet, c'est de s'arranger pour qu'il ait de l'énergie pour combattre son virus. Et ça, c'est toutes des mesures qui vont favoriser la guérison. Mais disons qu'avec les enfants, ils vivent ça difficilement de ce temps-ci. La fièvre est intense, ça dure 2-3 jours, puis c'est un peu plus fort qu'à l'habitude.
Oui, c'est tough. Hein? Est-ce que ce sont des pénuries réelles ou artificielles pour faire augmenter le coût des médicaments?
C'est une pénurie, c'est pas une pénurie, c'est un déficit de l'offre par rapport à la demande. La demande, depuis qu'on a déconfiné, ça n'arrête pas d'augmenter. Là, avec les virus, c'est encore pire. Puis elle est artificielle parce que les gens ont peur d'en manquer en partie. Fait qu'ils veulent l'acheter au cas où que leur enfant soit malade, ce qui se comprend très bien, là. Mais en même temps, ça vient rajouter une pression qui n'existe pas normalement. Les gens n'achètent pas ça quand ils n'ont pas de besoin. Fait que ça vient rajouter. Mais pour ce qui est des prix, les prix sont stables. Là. Les prix de tablettes ne changent pas. Puis ça reste... Les fabricants, je peux pas le dire s'ils vont changer leur prix, mais c'est actuellement les prix ne bougent pas.
Deux, trois affaires, Benoît. Là. D'abord, j'ai un collègue qui revient de vacances de Cuba, puis on me dit qu'il a fait 4 pharmacies pour trouver un test COVID, là, trouver une boîte. Est-ce qu'il manque des tests COVID?
Non, on en a en masse. Je suis très, très surpris de ça. Peut-être qu'il y a des pharmacies qui en tiennent moins parce que les gens en veulent moins, mais on a accès à tout ce qu'on veut là pour le moment, il n'y a pas de problème.
OK. Puis je lisais aussi que dès 2023, vous autres, les pharmaciens, Benoît, vous allez pouvoir offrir des consultations et des suivis médicaux pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, d'asthme ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques, les MPOC. Qu'est-ce que ça change pour vous, ça?
Ben c'est pas des consultations médicales, faut faire la nuance. C'est plutôt une prise en charge du traitement de ces patients-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on le fait déjà pour le diabète, là on va le faire pour les maladies que tu viens de nommer. C'est-à-dire que le médecin pose le diagnostic, mais après ça on peut procéder aux ajustements de médicaments, à ajuster des doses, à en enlever un, à en rajouter un pour s'assurer qu'on ait un traitement optimal. Fait qu'on vient de tu veux nous donner plus d'autonomie pour plus de maladies chroniques, ce qui est une bonne nouvelle. Avant, c'est par exemple pour la maladie pulmonaire obstructive, chronique, c'est le médecin qui faisait les ajustements. Là, le pharmacien va pouvoir le faire. Donc, ça libère le médecin puis ça facilite l'accès à ces modifications de doses-là pour que les gens aient le meilleur traitement possible puis qu'ils ne retournent pas à voir le médecin ou à l'hôpital parce qu'il décompense.
Okay.
On le faisait déjà pour le diabète, on le faisait pour l'hypertension artérielle, on le faisait pour la glande thyroïde. Là, on va le faire pour plusieurs maladies chroniques, ce qui est une bonne chose, qui devrait améliorer aussi la disponibilité des médecins, mais ce n'est pas des consultations médicales. Là. On ne va pas examiner les poumons. Pis,
c'est des suivis. Là. C'est des, faut quand
c'est
même...
des suivis, la prise en charge.
OK. Puis là, il faut encore que les patients soient au courant de ça et qu'ils prennent rendez-vous avec leur pharmacie. Pas, quand une fois que tu as ton ordonnance, là, tu ne retournes pas voir le médecin, tu ne vas pas à l'urgence. Là, tu peux t'adresser à ton pharmacien.
Oui, qui va faire le suivi. Puis même si tu appelles le 811... Puis tu dis au 8-1-1, mais moi je vais pas bien, là, je fais comme mon asthme est décompensé ou ma maladie est décompensée, qu'est-ce que je peux faire? Ils vont référer à leur pharmacien, dire retournez voir le pharmacien, il va pouvoir ajuster vos médicaments, puis dans un premier temps, on va s'assurer. Fait que nous, on va le dire à nos patients qui ont des médicaments chroniques, mais les patients vont aussi être référés au pharmacien quand c'est le pharmacien qui peut faire partie de la solution. Fait que ça va se connaître, là. Ça va tranquillement, ça va s'installer comme tout le reste.
Là. OK. Avant qu'on se quitte, Luc Boileau, le directeur de la santé publique, parlait de l'espèce de trio de virus, là, plus la COVID. Puis moi, j'en ai eu un, là. J'ai manqué toute une semaine parce que je toussais sans arrêt. Il y a comme des virus respiratoires, là, qui sont assez féroces. Est-ce que vous le voyez, vous autres, en pharmacie, ça?
On le voit en pharmacie, on le voit dans nos familles et nos amis. C'est assez clair que bon, il y a l'influenza qui commence à monter. Il y a la COVID qui est encore là. Moi, j'ai encore trois employés avec la COVID aujourd'hui.
C'est vrai.
Oui. Puis en plus, il y a le syncytial qui circule beaucoup chez les enfants. Mais tu sais, ça, on le voit là. En plus des autres virus du rhume qui s'installent. Fait que il y a le trio, puis il y en a d'autres. Et il faut dire que ça fait 2 ans qu'on est plus ou moins isolé, qu'on a perdu une certaine immunité face à ces virus-là. Fait que là, c'est la joie, là. Je veux dire, ça se transmet rapidement. Mm. Puis façon de parler, là, les virus se transmettent rapidement, puis ils restent plus longtemps parce que notre immunité a été moins bonne au cours des 2 dernières années. Fait que c'est un phénomène normal, mais qu'on n'avait pas nécessairement anticipé, par contre.
Il me semble qu'on devrait inciter les jeunes à l'école de porter des masques. Il me semble que c'est l'endroit parfait pour se transmettre les virus.
Absolument, absolument. C'est sûr, pas, mais... Là. Non, on le fait pas, mais c'est sûr que si tout le monde portait plus le masque, il y aurait un ralentissement de ces virus-là. Ça, c'est clair. Là. On n'a pas à sortir de ça. La réponse, elle est claire. Maintenant, est-ce qu'on veut le faire? Ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre entrevue. Président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin, toujours un plaisir. Merci.
Salut, Benoît. Merci. Bye. Ciao.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, qui m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime.
Philippe-Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, j'en revenais pas.
On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Robitaille.
Bonjour à vous deux.
Oui, bonjour les rencontreux.
Alors, Éric Duhaime a l'appui de Paul Saint-Pierre Plamondon là, dans ses 3 demandes, Antoine.
Ben oui, les conservateurs devraient avoir accès à des ressources de l'Assemblée nationale, même s'ils n'ont fait élire aucun député. C'est intéressant. Ces 3 demandes-là sont pas très compliquées. Hein?
C'est pas grand chose.
Non, c'est ça, avoir accès à une salle de conférence de presse, avoir accès au huis clos du budget. Puis,
du bureau, oui.
Donc, ça ne coûterait pas un sou à l'Assemblée nationale, fait valoir M. Duhaime. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est logique et cohérent de la part du Parti québécois, lui, qui crie à l'injustice là, pour ce qu'on lui a donné comme outil pour faire le travail de troisième opposition.
Pour un demi-million de votes de Québécois, quand même, hein, faut le dire. C'est quand même. Éric Duhaime représente une partie de la population.
Mais ce qu'il disait, c'est intéressant tantôt, c'était tu additionnes Québec solidaire, le PQ, puis le Parti conservateur. Ensemble, ils ont 14 députés et ils ont plus de votes ou presque plus de votes que la CAQ.
Il y a quelque chose qui ne marche pas, hein.
Ben oui, c'est ça. Mais comme on veut pas changer le vrai fond du problème ou d'adapter un peu le mode de scrutin à la nouvelle réalité multipartite, on essaie de gossailler les règles de l'Assemblée nationale en ce moment, mais il va falloir revoir ces règles-là pour
c'est parce que c'est ça, mieux refléter le système partisan réalité. A changé, là.
Ben c'est ça.
Il est éclaté maintenant, là. Donc il faut faire quelque chose. Peut-être qu'on pourrait fixer un seuil là, à 10% des voix, puis dire... Au-delà de ça, là, ben là, vous avez accès quand même si vous n'avez pas d'élu, ben vous avez peut-être le droit à un petit bureau puis à faire des conférences de presse.
Parce que un parti politique qui a 10% des voix, c'est quand même beaucoup. Là.
C'est énorme, ben oui, c'est un seuil qui est très élevé. D'ailleurs, dans la réforme qui est proposée du mode de scrutin dans le projet de loi 39 du gouvernement de la CAQ, là, qui n'ont jamais voulu faire adopter, ben, c'était 10% des voix pour justement accéder à l'espèce de compensation. Puis il y a bien des gens qui disaient, ben, c'est bien trop élevé, ça n'a pas de bon sens, c'est comme un seuil impossible à atteindre pour les nouveaux partis. Ben, j'ai posé la question à Québec solidaire, seriez-vous d'accord, vous, avec ça? Puis c'est drôle, Québec solidaire,
Ils jouent une game, hein?
Ah, ben, ils sont tellement prudents, là, tu sais. Ils m'ont répondu, ça soulève beaucoup de questions, puisque ça n'a jamais été fait. Alors, on va attendre l'avis du secrétaire général et de la présidence.
Ah, ben.
Mais on va quand même dire qu'il joue depuis le début un jeu de façon très habile, Québec solidaire. Là.
Oui.
Ils sortent de ces négociations-là, la tête totalement haute, les poches totalement pleines. Eux ont eu gain de cause sur toute la ligne, ont du temps de parole comme il faut, des budgets comme il faut, et n'ont pas été pris d'un guéguerre interne de « ils quêtent, ils ont besoin de quêter, de les libéraux, ils sont pas sûrs, ils peuvent pas ». Je trouve, moi, qu'ils ont navigué sur cette fine ligne de façon
peut-être
admirable.
Que c'est l'expérience.
Peut-être.
Je pense que c'est l'expérience parce que il y avait Alexandre Leduc qui soulignait en entrevue en fin de semaine que ben, dans ces négos-là, le nombre de votes ne compte pas. C'est le nombre d'élus. C'est le nombre d'élus.
Ouais. Mais là, tout à coup, on a
et
plus
là, il soulignait une autre affaire. Excuse-moi, Benoît,
on
juste
joue
deux
game,
minutes.
Là.
Il soulignait qu'en 2014, avec trois élus, Amir, Françoise et Manon, Québec solidaire avait eu une fraction que le budget, que le PQ a en budget. C'était quoi? 259 000 au lieu de, pour les péquistes, 805 000.
Oui, mais là, il n'y a pas le calcul des charges du bureau de comté là-dedans. Parce que le chiffre du PQ, c'est 570, je pense, leur chiffre de budget. Parce qu'il exclut le budget de comté de Paul Saint-Pierre Plamondon et des autres députés, là, si je me souviens bien. Là,
mais là, on est rendu à 5 parties. Il va falloir que les règles s'ajustent. Puis en même temps, je disais à Éric Duhaime, deux affaires. C'est quoi l'intérêt de Gabriel Nadeau-Dubois de vous aider? Puis deuxièmement, le principe, là, il y a une médaille d'or, d'argent puis de bronze. Il n'y en a pas en plywood ou en plastique. Fait qu'à un moment donné, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5. Combien on organise de médailles? Là, tout à coup, ben, il va falloir s'adapter.
Mais c'est ça.
Il faut peut-être adapter le mode de scrutin. Il va y avoir une manifestation demain, j'en ai déjà parlé. Donc, y a des jeunes là, qui se mobilisent. Je parlais à Jean-Pierre Charbonneau tout à l'heure, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui disait... Ben, justement, si les jeunes se mobilisent comme en 2012, peut-être que ça va amener une partie de la population à mettre assez de pression et à démontrer à François Legault qu'il n'y a pas que les intellectuels, que quelques intellectuels qui s'intéressent à cette question-là.
Ça a l'air qu'il se serait en train d'évaluer l'ouverture d'un compte TikTok pour pouvoir parler sa cause.
Hey, ça va. Éric Duhaime me disait que Jean-Pierre Charbonneau allait être avec lui demain pour son live. Là. Il fait un live, je ne sais pas sur quel réseau. Mais,
Facebook, là, je présume.
Mais là, c'est en train de transcender les partis.
Ça transcendait les partis avant l'élection. Il y avait juste les libéraux qui ne voulaient pas. Ils ont signé une lettre. La CAQ a renié sa promesse. Signé. Fait qu'à un moment donné, ça transcende l'opposition.
Mais
ça transcende jamais le gouvernement.
Il y a un autre élément qui joue, je pense, dans les négociations. C'est que, par exemple, tu as des anciens zadékistes qui se souviennent des négociations au temps où la DQ était minoritaire face au PQ et qui négociaient. À une certaine époque, ça a été André Boisclair. Et je veux dire, ils n'ont pas des très bons souvenirs. Même chose pour Québec solidaire. Ils se souviennent du PQ qui essayait de les tasser dans le coin.
Est-ce que quelqu'un a des bons souvenirs avec André Boisclair?
Ça, c'est la bonne question. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas André Boisclair. Personne n'est André Boisclair,
non,
en fait.
Non, je sais,
André
Boisclair. Il y a comme une petite satisfaction qui ne se dit pas en public, mais qui s'écrive à certains chroniqueurs, comme dans le sens où ils l'ont d'en face, ben maudit, je suis bien content.
Moi, mais tu peux pas demander à Paul Saint-Pierre Plamondon de payer pour l'intransigeance d'André Boisclair qui se prenait pas pour un 2 de pique, là.
Mais non, on n'est pas dans Game of Thrones.
Ben non,
dans la démocratie québécoise.
Ouais. Ah.
Alors, Nathalie...
Les choses humaines sont faites de ça. Moi, j'ai entendu un ancien animateur d'une autre station ce matin parler de son successeur avec beaucoup de verve.
Dans une autre station? Qui, quoi?
moi et mon nombril, oui. Nathalie.
Quand Benoît parle
écouté, hein, 7h ce matin.
Quand Benoît parle du ministre de l'Éducation, il y a tout un passé qui revient à la surface.
Ben oui, quand même, parce que Drainville se comporte toujours comme s'il descendait du ciel. Puis là, lui, il prend ma place le midi, puis là, il dit, je vais faire mieux. Man, je t'ai donné 33 parts de marché, femme ta gueule, puis dis merci, que c'est ça. Puis là, il arrive, ministre, puis il parle juste de lui, il parle pas des élèves, parle pas des profs, parle pas de personne. Là, tu dis, c'est parce que c'est pas à propos de toi, le gros, c'est pas ton nombril qui nous importe, c'est ce qui se passe dans les écoles puis les classes. Faudrait peut-être le lui rappeler, il y a beaucoup d'amis dans les communications, M. Drainville, il devrait peut-être servir à ça.
Alors, tu dois comprendre que certaines personnes, certains anciens de l'ADQ qui sont à la CAQ...
Gardent un certains, os, oui.
Certains... Il y a une petite crotte sur le cœur.
Québec solidaire, oui. Ils ont des souvenirs de vieilles négo.
Bon, OK.
Dans la victoire, il faut être plus grand. C'est tout ce que j'aurais à dire.
Ah, oh, toi, t'es... Oh, monsieur Sagesse. Nathalie Roy, donc, va être présidente de l'Assemblée nationale.
Elle va être présidente, puis tu sais que c'est, pour moi, c'est un espoir... Parce que, oui. Tu sais qu'ils veulent faire une rénovation, on en a parlé vendredi, je pense que Philippe bureaux, Vincent n'était pas là. Ouais, ils veulent se débarrasser des bureaux en noyer noir qui ont été dessinés par l'architecte du Parlement Taché. Puis ils veulent, je sais pas, ils veulent faire une petite atmosphère lounge puis un hémicycle là, au Parlement. Là. C'est un massacre patrimonial qui se prépare. Surtout que l'Assemblée nationale est un peu au-dessus des lois là-dessus. Mais avec Nathalie Roy comme présidente, j'ai un peu d'espoir, puis c'est Jean-Pierre Charbonneau qui m'a fait penser à ça tout à l'heure. On peut l'écouter? Charbonneau, 28-11.
Oui. Président ou de la présidente de l'Assemblée nationale.
Ben, c'est ça qui me fait peur.
C'est ça. Ben, t'sais, c'est pas quelqu'un qui est soucieux du respect des traditions et du respect du patrimoine. On peut se retrouver avec des résultats catastrophiques ou pas très agréables à regarder dans les années qui vont suivre. À l'inverse, quelqu'un est soucieux du patrimoine.
Ouais.
Espérons que la prochaine personne, qui semble-t-il est une ancienne ministre
de la culture,
et qui était responsable du patrimoine, sera un peu plus sensible à ces questions-là.
C'est vrai, un peu quand même. Hein?
Mais moi, ce qui me désole, c'est quand même Jacques Chagnon, l'ancien président, qui a accepté les rénovations actuelles. Donc, l'ajout de deux édicules absolument horribles, noirs.
Ah oui? Ah
puis
oui.
En avant, on a complètement rasé la fontaine des Abénakis pour faire une sorte d'entrée de centre d'achat devant la porte centrale du Parlement. Là. Donc, je pense que tu dois avoir une sensibilité pour le patrimoine, comme Jacques Chagnon en avait une. Il vit dans une maison du 18e siècle, Jacques Chagnon, qui a rénové tout ça. T'as beau avoir ça, si t'as un secrétaire général... puis des élus qui se foutent du patrimoine, ben c'est ça. On se retrouve avec cette espèce d'entrée qui est pas très jolie là devant le Parlement.
Fais
mais donc, est-ce que j'espère que ça sera pas les mêmes qui vont prendre, c'est-à-dire, j'espère qu'on aura pas le même genre de décision pour le Salon Bleu qui est le cœur de la démocratie québécoise.
Il y a des bureaux IKEA qui sont en rabais aujourd'hui.
Tu me fais peur, je
non, mais
dis,
c'est beau, pas c'est
l'idée.
Pas cher. C'est pas cher.
Facile à mourir.
On est en train d'économiser parce qu'il faut envoyer des chèques au monde.
Ouais.
Ça nous coûte trop cher. Ça, on donne trop d'argent au PQ. Fait qu'on met de belles tables IKEA. C'est beau. C'est le fun, puis on peut échanger aux 5 ans quand c'est démodé.
Puis les vieux meubles, là, ça brûle bien, hein? Tu fais un... Bon, Pierre Moreau...
Arrêtez,
sera...
j'ai mal à mon patrimoine.
Ouais, on te taquine.
Même un petit peu d'ongam, ça va passer.
Okay.
Pierre Moreau sera pas le chef du Parti libéral, donc.
Hey. Mais non, puis j'ai ma petite chanson, je sais pas si Rémi peut me la mettre, mais tout va très bien, Madame la Marquise. Je peux la chanter, au fond.
Ouais, chante-la parce qu'il est pas là.
Oui, je pense que ça va. Ça va. Tu sais, quand on dit que ça va pas du tout pour le Parti libéral du Québec, je pense que ça aurait été une candidature, malgré l'âge de M. Moreau, puis quand même, c'est une jeunesse par rapport aux politiciens américains qui prennent leur retraite à 95
ans. Chanceux au niveau de la chevelure.
Oui, il y a plein de cheveux, là. Ça ne perd pas 65 ans.
Jaloux.
Il est bien beau bonhomme. Les grands ont prise, en tout cas.
Oui.
Je sais pas, mais en tout cas, ça marche.
C'est une blague, c'est pas vrai.
Tu penses que c'est une grève?
Ben non. Il a toujours été. C'est comme Martineau, ça. Il y a beaucoup.
C'est vrai
beaucoup
que Richard a une crinière solide, j'ai remarqué ça ce matin.
Mais il n'y a pas de poils ailleurs. Fait que faut, que tu veux faire?
Vous avez passé trop de temps ensemble.
Ah, beaucoup de temps, oui, vraiment, là, à changer l'un de l'autre.
Moi, ça, j'avoue que ça me frustre un peu envieux là, de tous ces hommes qui ont des cheveux ou dans le milieu du front encore.
Alors, moi, je les emmerde profondément.
Ah, oui.
Alors,
hein?
Pierre Monroe ne sera pas là. Avant qu'on se quitte, un mot sur la Rouleau Commission,
oui.
Philippe Vincent.
On passe dans une phase un peu moins sexy, la phase des experts qui vont essayer d'expliquer ce que la phase politique nous a dit et surtout d'aiguiller le juge pour la suite de ses travaux. Hein, parce que il y a quelqu'un quelque part qui va devoir prendre une décision, et ça, c'est le juge Rouleau, sur est-ce que les libéraux étaient justifiés d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Donc, est-ce que le seuil à la menace à la sécurité nationale était suffisant, alors que le CRS a dit selon ses critères non, le gouvernement a dit selon les critères du gouvernement oui, mais selon les critères du gouvernement, pour la loi sur les mesures d'urgence, le seuil devrait être plus élevé que le seuil du CRS. Alors, il devrait y avoir des profs, experts de droit et autres, qui pourraient venir expliquer la quadrature du cercle au juge Rouleau. Sinon, ça va surtout être de voir, une fois qu'on va avoir décidé si oui ou non il y avait le droit légalement de le faire, qu'est-ce qu'on fait avec la loi sur les mesures d'urgence? Est-ce qu'on met plus de critères? Est-ce qu'on met plus
c'est
de balises?
C'est tout un précédent, pareil.
Ben, exact, exact.
C'est mais un comme on l'utilise méga pas souvent, précédent, ce qui vient de se produire.
On ben, fait écoute, quoi?
On dirait qu'ils s'en rendent pas compte, là. Eux qui capotent à chaque fois que... qu'il y a une querelle juridique très, très fine et qu'un Parlement adopte une clause dérogatoire. J'en reviens pas comme ils sont mous.
En même temps, selon eux, alors qu'ils sont la loi est dans la loi pour ça. Oui, mais selon eux, la loi a été, les critères de la loi ont été utilisés selon le fondement de la loi. Là,
mais
dans leur lecture de la situation, la clause dérogatoire devrait être utilisée après avoir été battu devant un tribunal.
En droit, il n'y a que des interprétations, puis on n'accepte pas que les parlements, à un moment donné, disent, ben là, votre façon de voir le droit, là, c'est excessif, et moi, je déroge.
Mais savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans?
Quoi?
C'est quand, pendant qu'on va aller acheter des meubles IKEA pour l'Assemblée nationale, on va pouvoir acheter une tablette IKEA pour le rapport du juge Rouleau. Comme ça, on va sacrer ça là-dessus, puis tout va être bien en place.
Non, mais ça, attendez, parce qu'à Ottawa, les vraies rénovations du Parlement ont commencé, quoi, il y a 3-4 ans, puis devraient se terminer d'ici...
ils vont mettre le feu, là.
J'espère qu'ils démoliront pas Stornoway.
Ben non. Non, ça, c'est une maison qui est bien rénovée. La résidence de l'opposition, c'est le 24 Sussex.
C'est le Sussex, hein?
C'est le 25 Sussex, oui, c'est ça, c'est ça.
Avec l'avion,
oui, c'est la résidence de l'opposition. Le 24 Sussex, il ferme, là, pour pas que ça brûle. Tu sais, quand ça va bien.
Mais qui rénove, là, franchement, c'est du patrimoine, ça?
Ça va coûter trop cher. Puis à cause de Stephen Harper, qui voulait pas faire ça, personne veut le faire. Puis là, on est dans les coupures. On change pas d'avion du premier ministre.
Mais il y a plein de tours à condos qui sont libres, là. Sacrez-moi ça dans un tour à condos.
Moi, encore une fois, ma sensibilité patrimoniale fait que je pense qu'on devrait rénover le 24 Sussex.
Oui, parfait.
Voyons donc.
Mais oui, t'as
fait un entrepôt, là, Amazon, là.
Non, oui, c'est ça.
Bien plus facile pour faire livrer des colis.
Mais ça fait combien de temps, là, 24 Sussex est en rénovation? Là, ils se rendent compte, c'est un peu comme le tunnel Hippolyte de la Fontaine, ils se rendent compte que c'est pire que ce qu'ils avaient prévu. Donc,
mais c'est parce qu'ils ne l'entretiennent pas, en fait. C'est qu'ils ne l'entretiennent pas, fait que ça dépérit au fil du temps, et c'est dégueulasse là-dedans. Il y a de l'amiante dans les murs, ça va être un colossal de gros travail.
Colossal de gros travail, c'est l'expression du jour. Merci Philippe Vincent, Antoine, à demain.
Au revoir.
Salut.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Du Trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Du Trisac.
Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Richard, bonjour.
Bonjour.
La chronique de mes angoisses. C'est comme ça que je m'appelle ça. Là, tu nous parles aujourd'hui d'une nouvelle étude, en tout cas, ce que je comprends, là, qui rapporte que certaines bactéries présentes dans le côlon produisent une nouvelle classe de molécules génotoxiques qui favorisent le développement du cancer colorectal. Je vous en prie, M. Béliveau, des explications.
Oui, ben en fait, c'est une étude très importante publiée dans une grande revue scientifique qui s'appelle Science, où les chercheurs ont montré que le cancer colorectal, faut dire au départ que c'est un cancer important. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer au Canada, et c'est un cancer qui est essentiellement associé au mode de vie. On estime que les deux tiers des cancers colorectaux ne sont pas liés à l'hérédité, ils sont pas transmis par les gènes ne sont pas transmis par les parents, mais les mutations sont acquises par notre mode de vie. Donc, surpoids, sédentarité et mauvaise alimentation sont des facteurs qui prédisposent au cancer colorectal. comme c'est un tueur majeur, tout ce qu'on peut trouver pour aider à comprendre le développement de ce cancer-là est important. Et là, il y a une équipe de chercheurs qui vient de montrer une étude très complexe qui ont... On savait déjà que les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, augmentaient le risque de cancer colorectal. Et les chercheurs ont isolé des bactéries dans les selles de ces patients-là. Ils ont isolé 18 souches de bactéries qui produisaient des toxines qui endommageaient l'ADN des cellules de votre intestin. Et on pense que ces bactéries-là sont en partie responsables de l'apparition des cancers colorectaux. Donc, ça pourrait envisager des nouvelles approches thérapeutiques pour traiter ce cancer-là avec des antibiothérapies ciblées vers ces bactéries-là ou d'autres stratégies thérapeutiques qui pourraient viser les enzymes impliquées dans la production de ces molécules-là que vous avez très bien nommées, les indolimines. Ça, c'est des molécules qui n'avaient jamais été isolées. Donc, une nouvelle classe de molécules qui montre, encore une fois, que le corps humain est un écosystème. Vous avez plus de 2 kilos de bactéries dans l'intestin. Ces bactéries-là ne sont pas anodines. Elles contribuent pour la majorité d'entre elles à votre santé. Mais lorsque vous êtes obèse, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous mangez mal, la proportion des bonnes bactéries chute et la proportion des bactéries nocives augmente. Et ces bactéries-là, qui portent des beaux noms, le Morganella, Morganini, entre autres, augmentent. Et ces bactéries-là sont associées au développement de maladies comme les maladies inflammatoires de l'intestin et le cancer colorectal.
Mais Richard, si tu parles de bactéries, là, ça se règle avec des antibiotiques?
Pour certaines catégories de bactéries, donc on a déjà, par exemple, le cancer de l'estomac, on sait déjà qu'il y a une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui est associée au cancer de l'estomac. Donc, c'est pas nouveau. Il y a des cancers qui sont causés par des virus, il y a des cancers qui sont causés par des bactéries. Et là, ça c'est en fait, on le savait parce que lorsqu'on fait des biopsies chez ces patients-là, on retrouve des quantités de bactéries, contrairement à ce que les gens pensent. Quand vous avez une tumeur, ce n'est pas que des cellules tumorales. La masse de la tumeur, il y a des cellules inflammatoires, il y a des macrophages, il y a des lymphocytes, et il y a également, dans beaucoup de cas, des bactéries présentes à l'intérieur de la tumeur. Et on pense, ça c'est le nouveau changement de paradigme en oncologie de pointe, là, que les bactéries présentes à l'état latent dans le corps, caché à différents endroits du corps, contribuerait au développement du cancer. Donc ça, c'est une étude qui le montre de façon très claire.
OK, mais explique-moi, Richard, pourquoi le surpoids et la sédentarité, aussi l'alimentation, ajoutent aux facteurs de risque?
Pour 2 raisons principales. Lorsque vous êtes en surpoids, même sans être obèse, le fait d'être en surpoids, vous êtes en inflammation chronique. Donc, votre tissu, le tissu adipeux produit des molécules comme l'interleukine 6, le TNF-alpha, et ça stimule l'inflammation dans vos tissus. Donc, si vous êtes gros ou grosse, vous êtes en inflammation chronique de façon quotidienne. Et l'inflammation, c'est ce qui permet au cancer de se développer. C'est une des conditions physiologiques essentielles au développement du cancer. Donc, la première conséquence du surpoids, de la sédentarité et de la mauvaise alimentation, c'est d'avoir une inflammation chronique qui, elle, prédispose au développement du cancer, de tous les cancers, incluant le cancer du côlon. Et la deuxième conséquence du surpoids, c'est que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous débalancez la proportion des bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Ouais. Votre flore intestinale, votre microbiote, votre microbiome, appelez-le comme vous voulez, change en fonction de l'alimentation, comme un peu comme votre jardin. Si vous mettez tel type d'engrais, si vous mettez tel type de sol, vous allez avoir tel type de plantes qui vont pousser, là, si vous laissez la nature faire son œuvre. Là. C'est un peu la même chose. Lorsque vous avez certains types de bactéries, ça donne certaines conditions physiologiques, biochimiques à l'intérieur du côlon. Et lorsque vous avez des mauvaises bactéries, comme dans ce cas-ci, bien là, ces bactéries-là produisent elles-mêmes des molécules, et ces molécules-là, comme elles sont directement exposées aux cellules de la muqueuse intestinale, bien, ça favorise le développement du cancer. Donc, c'est une étape de plus, Benoît, dans notre compréhension de ce cancer-là qui est très important.
OK, mais la sédentarité, ça joue comment? C'est parce que je suis avaché sur un sofa que je suis plus à risque?
Oui, encore une fois, à cause de l'inflammation chronique, parce que votre physiologie, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous n'êtes pas actif, le corps humain a été sélectionné dans l'évolution pour être très, très actif. On marchait on estime 15 à 20 km par jour dans notre évolution, essentiellement pour chasser et pêcher et cueillir parce qu'on n'avait pas de supermarché. Et notre survie, la survie de tous les animaux dépend du fait qu'ils sont très actifs. Notre physiologie, notre biochimie est faite pour l'activité. La sédentarité, ça favorise donc le développement d'une inflammation chronique résiduelle. Et cette inflammation-là, ben c'est le terreau le favorable pour la sélection des mutations qui se produisent dans la majorité des cas de façon aléatoire dans vos cellules et qui, après 10, 20, 30 ou 40 ans, vont vous donner un cancer. Donc, c'est là que la sédentarité joue son rôle.
Et on peut rien
c'est
faire.
C'est pas juste au niveau cardiovasculaire, niveau systémique.
Et on peut rien faire contre l'inflammation.
Oui, on peut faire des choses en inflammation aiguë. Les anti-inflammatoires font camphorner des anti-inflammatoires. On utilise les anti-inflammatoires en clinique beaucoup. La COVID, on a utilisé les anti-inflammatoires, dexamétasone et d'autres types d'anti-inflammatoires, parce que la majorité des maladies, que ce soit des infections, le cancer ou les maladies cardiaques, le dénominateur commun, c'est l'inflammation. Donc, quand vous avez à l'opposé, quelque chose qui est générateur d'inflammation, c'est jamais bon pour la santé au sens large. C'est pas bon pour le cardiovasculaire, c'est pas bon pour l'Alzheimer. Il y a des études qui ont montré que l'inflammation chronique est associée à une augmentation du risque de dégénérescence au niveau du tissu cérébral, incluant l'Alzheimer. C'est pas juste au niveau cardio, c'est pas juste au niveau onco, c'est au niveau de tout ce qu'on appelle en physiologie l'homéostasie, l'équilibre des systèmes à l'intérieur du corps. Cet équilibre-là est dicté par l'évolution qui a sélectionné les individus qui étaient actifs, parce que ceux qui étaient actifs chassaient mieux, pêchaient mieux, cueillaient mieux, et ceux-là ont survécu. Donc, ceux qui étaient passifs, ceux qui étaient sédentaires, sont disparus dans l'évolution. Notre biochimie est donc adaptée à une activité intense. Et là, c'est la sédentarité vient contrecarrer cela d'un point de vue physiologique et biochimique.
Puis avant qu'on se quitte, André Richard, le fast-food, là, c'est une autoroute vers l'inflammation.
Oui, ben en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Tu fais bien de le soulever. En fait, c'est surtout l'alimentation industrielle. Il y a du fast-food qui est bon. C'est pas parce que c'est rapide que c'est pas bon. Ouais. Si vous mangez libanais ou vietnamien,
ouais.
Vous mangez japonais, vous allez vous en tirer. Là, c'est quand on mange surtout les produits industriels.
Je mange des sushis ou du falafel. On n'est pas dans le fast-food américain industriel de hamburger avec des frites puis des rondelles d'oignon.
Exact. Et quand vous mangez des aliments industriels transformés, vraiment du mauvais fast-food, là, vous changez votre microbiome et vous introduisez des additifs, des agents stabilisants, des agents émulsifiants, des agents de conservation que l'industrie met pour préserver ces produits. Ces molécules-là modifient votre microbiome et vont jouer sur des processus dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est une des conséquences pour lesquelles la mauvaise alimentation, en plus du surpoids, est associé à une augmentation du risque de maladie chronique à cause du débalancement important que la mauvaise alimentation provoque au niveau de des milliers de bactéries que vous avez, des milliards de bactéries et des centaines de sortes de bactéries que vous avez dans votre intestin. C'est un écosystème complexe. On le comprend. La majorité des gens comprend qu'à l'échelle macroscopique, lorsqu'on perturbe un écosystème, on enlève une espèce, on peut détruire un écosystème complet. Mais il faut comprendre que c'est la même chose à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous perturbez le délicat équilibre que l'évolution a sélectionné pour les bactéries qui vivent dans votre intestin, vous perturbez cet équilibre-là en étant sédentaire ou en mangeant mal, vous allez payer pour les conséquences de ce débalancement-là avec la rupture de cet équilibre-là.
Sais-tu quoi la pire nouvelle là-dedans, Richard? C'est que le fast-food, là, c'est le meilleur service à l'auto. Il n'y a pas mieux. Tu sais, quand t'es pressé et que tu veux pas sortir, il y a juste ça, malheureusement. Ouais. Là. Si tu veux manger en chemin...
Ouais. Mais Benoît, il y a une façon. Moi, j'ai passé ma vie dans des aéroports à voyager partout. Il y a une façon de sélectionner dans le fast-food. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. On sélectionne qu'est-ce qu'on mange. Et c'est pas grave, encore une fois, quand on le mange pour se dépanner à l'occasion, c'est pas ce qu'on fait une fois par semaine qui est important, là. C'est ce qu'on fait une fois par jour. C'est la chronicité de nos mauvaises habitudes qui est dangereuse pour ça, là. C'est pas le fait de manger.
Merci de.
Du mauvais fast-food à l'occasion, ça n'a pas d'impact. C'est la régularité, là, de cela.
OK. Merci de me déculpabiliser, ça me fait du bien. Richard Béliveau.
Je vais donner la culpabilité.
Docteur en biochimie, vous pouvez lire dans le Journal Montréal, lisez ça, là. C'est vraiment intéressant et c'est bon de savoir tout ça, c'est bon pour votre santé. Richard Béliveau, merci. À la semaine prochaine.
Merci, bonne journée, bye.
Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Voilà.
C'était surréaliste.
J'ai honte.
C'est complètement ridicule.
Des envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher.
Anne Durocher, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu veux me parler quoi des temps sont durs? Pour le français ou qu'est-ce que tu veux faire?
Écoute, en fin de semaine, il y avait un dossier extrêmement percutant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, de nos deux collègues, Héloïse Archambault et Hugo Duchesne, Sorry, I don't speak French, sur le fait, qui est quand même assez hallucinant, qu'en 2022, encore au Québec, dans les hôpitaux, il y a des francophones qui ne peuvent pas se faire soigner en français. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé au mois de septembre l'année dernière. J'étais dans les toilettes de l'hôpital général juif et je t'ai accordé une entrevue. Voici ce que j'avais à te dire.
Cette nuit, il y a la chirurgienne et le résident qui viennent me voir pour me parler de ma chirurgie. Unilingue anglais, les deux. C'est pas, il n'y en avait pas un qui pouvait qui parlait pas un mot de français puis l'autre pouvait me parler.
Alors, c'était donc en septembre 2021. Donc, je t'ai appelé des toilettes parce que j'étais à l'urgence. J'attendais de me faire opérer pour la vésicule biliaire qui est super douloureuse. J'étais sous morphine, ce qui explique peut-être un peu le ton que j'avais. Et donc, à trois reprises, chirurgiens résidents sont venus me voir, incapables de me parler en français. Mais je veux juste rappeler pour les gens qui sont pas au courant, c'était pas genre des anglophones de Montréal qui baragouinaient le français, c'était des gens qui venaient de l'étranger, qui étaient résidents donc en médecine au Jewish et qui ne pouvaient pas même me dire bonjour Benoît. Fait que c'était même pas bonjour et
ou bonjour Sophie.
Ou bonjour Sophie ou oui non. Et ce qui est particulier, c'est que une des trois fois où je me suis fait donc m'expliquer ma chirurgie en anglais, et moi je parle parfaitement anglais là, j'ai fait toutes mes études supérieures en anglais, c'est pas ça le problème, c'est que je leur ai dit en anglais, it is unacceptable, you should be ashamed of yourself, you can't even speak to me in my own language in my own country. Et une des femmes médecins m'a répondu, tell that to your government because your government hired me. Tu diras ça à Monsieur Dubé, puis tu diras ça à Monsieur Legault parce que ce sont eux qui m'ont engagé. Et elle avait tout à fait raison d'une certaine façon. Comment se fait-il qu'on permet dans nos hôpitaux au Québec d'avoir des spécialistes, d'avoir des gens qui interagissent avec le public s'ils sont dans le fin fond d'un laboratoire? Comment ça se fait qu'on accepte ça?
Mais c'est un dilemme parce que tu as été opéré.
Oui.
Puis ils t'ont fait la job.
Oui, attends, parce que là, c'est important de le mentionner. J'ai fini par être opérée par un quatrième chirurgien qui n'était pas un des trois qui sont venus me voir au début, qui n'était pas un francophone d'origine, mais qui me parlait dans un français absolument impeccable. Et je le salue, j'ai été extrêmement bien soignée. Mais on parle du médecin, mais donc j'ai l'opération, puis t'es sous anesthésie générale. Donc quand t'es dans la salle de réveil, t'es complètement déphasé, t'es décalé, t'es sous l'effet des médicaments, t'es complètement dans un nuage pas super agréable. Et j'avais soif, là, tu peux pas savoir comment. Fait que j'arrêtais pas de dire j'ai soif, puis j'avais même pas les yeux ouverts, j'arrivais même pas. Et à un moment donné, j'entends une infirmière qui dit au préposé, au bénéficiaire, she's thirsty, go and get her some water.
On comprenait
parce que,
même pas
parce
ça.
Que le préposé au bénéficiaire ne parlait pas français. Fait que j'étais là en train, toute seule dans ma salle de réveil, puis je disais j'ai soif. Le préposé au bénéficiaire comprenait pas ce que je disais. Parce qu'il parlait pas français.
Ouais.
Fait que tu comprends, je comprends ce à quoi tu veux faire référence, le dilemme de dire on veut des spécialistes, on veut des sommités.
C'est le dilemme du Montreal Canadien. Tu veux des joueurs qui vont gagner les parties, soit francophones ou pas. Puis là, au Québec, on est rendu là. On est rendu à se dire, ça dérange plus, là, c'est pas
non,
grave.
Non, mais c'est
ça.
Pas vrai, ça ne peut pas être ça, Benoît. Parce que je te donne un exemple. Mettons, t'es en France, là. Penses-tu qu'en France, ils ont le même dilemme, qu'ils se disent, ben nous, on veut des sommités qui viennent de partout à travers le monde? ben ils vont quand même exiger que ce soit des gens qui viennent de pays où on parle français.
On n'est pas français. Jamais. On n'est pas français.
Oui, mais alors, il faut arrêter à ce moment-là. À ce moment-là, si c'est ça, Benoît, c'est pas grave. On met la clé dans la porte.
Puis on parle tous anglais.
Puis on parle tous anglais.
Puis on en parle
plus. On parle tous bilingue.
Ah ouais.
Mais dites-le-nous. Moi, je veux que le gouvernement, que mon gouvernement me regarde dans le blanc des yeux puis me dise, Madame Durocher, on a fait une croix là-dessus. Ça a été, à une certaine époque, une priorité. Mmh. Et ça n'en est plus une. Mais qu'on me le dise.
Non, qu'on devienne tous anglophones, qu'on arrête de se casser les couilles.
Puis qu'on arrête de se plaindre.
Ouais.
Parce que moi, je te le dis, Benoît, je te l'annonce aujourd'hui, tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle sur mon lit de mort, je vais me battre pour être servi en français à Montréal, même pour être servi en français à Ottawa, même pour être servi... Je veux dire... Si notre pays est officiellement bilingue...
Je sais ce que tu veux dire, Sophie, là, mais en même temps, la réalité, là, fait que t'as toute une nouvelle génération qui dit...
Ils s'en torchent. Excuse-moi de dire ça comme ça. Ils s'en foutent complètement.
Ah ouais, c'est ça.
Ils s'en foutent complètement.
Ils vont prendre des services dans quelques langues que ce soit, puis ça va être ça, le Québec.
Non seulement ça, mais ils nous accusent, nous, d'être intolérants. Cette génération-là nous dit, mais voyons donc, pourquoi vous vous plaignez? Vous n'êtes pas fin, t'es pas fin avec le livreur qui parle pas français.
Non,
t'es pas fin avec l'employé quand tu t'en vas dans une épicerie, quand tu t'en vas dans un commerce.
Parce qu'on a eu le discours, là, tu sais, quand on est arrivé avec la loi 101, tout à coup, on s'est dit, OK, les nouveaux arrivants, peut-être, parlent pas français, mais là, leurs enfants vont le faire. Mais là, c'est rendu que leurs enfants, ça leur tente pas tant que ça d'apprendre le français. Fait que, il y a eu toutes sortes d'entourloupettes sous les libéraux où il n'y avait pas à fréquenter les écoles francophones. Fait que là, on se ramasse avec ça, puis t'as des commissions scolaires anglophones là, qui fleurissent un peu partout.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas faire? La caricature aujourd'hui est drôle, là, dans le journal. C'est dans le journal, ça?
Excuse-moi, je ne l'ai pas vu.
Le gars est à terre, est en train de mourir dans son sang, puis t'as un médecin au-dessus de lui qui dit « Sorry, I don't speak French ».
Ah, c'est excellent,
on va se ramasser là.
Ouais. Non, c'est décourageant. Est-ce qu'il nous reste du temps? Non,
oui.
Il en reste
vas-y.
Plus.
Oui, oui.
Moi, je t'aurais parlé juste brièvement de mon club sportif, mais je pense que ça fait 25 fois que je te raconte l'histoire. Je suis dans un club sportif, dans un quartier où il y a des francophones, des anglophones, mais dans ce club sportif-là, il y a beaucoup d'anglophones. Pas la majorité, mais il y en a beaucoup. Ben, quand je vais à un cours de yoga, un cours de pilates, un cours de n'importe quelle niaiserie que je fais pour essayer de perdre du poids, quand il y a, mettons, 10 francophones, puis que le prof est francophone, il va donner le cours en français. Il suffit qu'il y ait un anglophone dans la classe, puis il passe à l'anglais ou il passe au bilingue. Puis le bilingue, ça veut dire 80% en anglais, puis de temps en temps, ils vont dire lève la droite, puis lève la gauche, puis le reste du temps, c'est en anglais. Et une fois, je suis arrivée dans le cours et la prof parlait juste en anglais. Fait que je suis allée la voir, je lui ai dit, je m'excuse, mais il y a hors de question que vous donniez votre cours en anglais seulement. Et elle m'a dit, la dame, I'm 70 years old, I've lived in Montreal all of my life, never been able to speak French, I'm so sorry. Ça fait, j'ai 70 ans, j'ai toujours vécu à Montréal. Je suis pas capable. Et elle était très, très, très mal à l'aise, la dame. Fait qu'elle m'a dit, pendant le cours, aidez-moi, tu sais, à faire la traduction. J'étais là, ben là, je viens ici pour relaxer, là, c'est pas ça. Peux-tu croire qu'à la fin du cours, il y a deux francophones qui sont allés la voir en disant, tu sais, mettons qu'elle s'appelle Alexandra, we're so sorry about what that lady just did. We want you to know that not all francophones are like her. We don't mind that you don't speak French.
Ah, parce que t'es une intégriste, toi.
Non, mais c'est parce que c'est plus colonisé que ça, tu meurs. Quand c'est rendu que c'est des francophones, tu sais, merci, monsieur.
Mais pourquoi?
On est désolé, monsieur. Vous êtes bien gentil, monsieur.
Mais pourquoi on se casse la tête? Si c'est ça, le Québec, si c'est ça, les Québécois, qui sont prêts à ramper pour pas déranger, qui s'excusent d'exister,
c'est exactement ça. Ben, je vais conclure simplement avec les cow-boys fringants. Si c'est ça, le Québec moderne, ben moi, je mets mon drapeau en berne.
Ça va être ça. On t'écoute à 2h30.
Ça demain.
Cet après-midi, this afternoon.
Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
Du Trisac.
Je lisais le numéro spécial du Maitlands 2023 où on fait le décompte des nouvelles en sciences et technologies qui vont pour le moins étonner en 2023. Puis en première place, on parle du télescope James Webb. En deuxième place, on parle d'une nouvelle technologie pour nous aider à combattre l'insomnie et à mieux dormir. En troisième place, on parle de drones qui vont révolutionner la livraison commerciale. En quatrième place, un système de transport dans une cabine insérée dans un tube qui irait jusqu'à 1000 km/h en Alberta. Ça s'appelle le FluxJet. Et en cinquième place, on parle d'une compagnie de Montréal, la compagnie Vertico. Et avec nous, son vice-président exécutif, Vertico Mobilité, Yannick Richard. Monsieur Richard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Le saviez-vous que vous étiez dans le Maitlands pour ce qui s'en venait en 2023 en ce qui a trait à la science et la technologie?
Oui, j'ai eu écho de.
Est-ce qu'ils vous ont interviewé?
Non, pas du tout.
Donc, ils ont fait quoi, d'après vous? Ils sont allés voir votre site, puis ont dit « ça, c'est la nouvelle affaire qui s'en vient? »
Non, je vous dirais que depuis quelques mois déjà, il semble se forger un écosystème assez solide alentour de nous. Fait que c'est probablement ça qui a attiré leur attention.
Bon, ben expliquez-nous, c'est quoi Vertico Mobilité? Les gens vont être étonnés, je pense.
Oui, en fait, Vertico Mobilité, ce qu'on veut établir, c'est un réseau de vertiports. Il va offrir un service de transport de taxi aérien, si on veut, fourni par un appareil 100% électrique qui s'appelle un eVTOL. Donc, un véhicule qui décolle et atterrit à la verticale.
Donc, c'est une espèce d'hélicoptère, si je comprends bien, un pilote, quatre passagers.
Oui, exactement. On se dissocie beaucoup de la notion hélicoptère pour okay. plusieurs raisons.
Pourquoi?
La première raison, c'est le bruit qui était le principal frein à l'industrie de l'hélicoptère pour déplacer du personne dans les centres urbains. Le deuxième point, c'est la notion d'essence. On peut penser à l'écologie, mais quand on pense juste aux normes au niveau des assurances pour assurer un bâtiment qui a un héliport sur le dessus avec un réservoir d'essence, ça a un impact majeur sur l'ensemble du bâtiment. Et le troisième point qui est, à mon avis, le plus important, c'est la rapidité et le déplacement de l'équipement qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir des déplacements, non pas pour les gens fortunés, mais pour monsieur et madame tout le monde.
On parle de. Monsieur Richard, c'est plus. Vous dites plus rapide, plus écologique, plus silencieux, plus sécuritaire parce que ce sont des taxis aériens électriques. Mais là, est-ce que ça va être à la portée de tout le monde ou faut faire une autre hypothèque sur sa maison?
Déjà, quand on a commencé le travail avec les gens de John Air Mobility aux États-Unis, notre objectif de départ était de pouvoir offrir un service aux gens, exemple à Montréal, qui coûterait moins cher que le stationnement d'une voiture à Montréal.
Ben voilà.
Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est orienté pour établir un peu notre schéma de travail au niveau des chiffres. Et je vous dirais qu'à 90-95%, on va y arriver. C'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir des aides gouvernementales qui vont rentrer là-dedans, mais notre approche, nous, est beaucoup plus de s'assurer que les clients ont une aide gouvernementale plutôt que l'entreprise.
Là, on annonce ça, M. Richard, là, pour dans le Maitlands, à Montréal, aussitôt que le 2026. Où en êtes-vous dans votre développement?
Nous, on avance rapidement. Il faut comprendre qu'il y a deux éléments dans le développement des eVTOL. Il y a les appareils comme tels et il y a l'exploitation de ces appareils-là qui vont se faire à partir de vertiports. Nous, on ne développe pas d'appareils. Nous, on travaille avec John Air Mobilité qui, eux, développent le Journey, qui s'appelle, qui est okay. le modèle présentement. Et
eux autres sont au Texas, hein?
Oui, ils sont au Texas, mais ils vont venir fabriquer ici à Montréal. 100% de l'assemblage et de la fabrication va être ici. Je pense que c'est pas annoncé, mais ça devrait être annoncé bientôt.
Ça l'est maintenant, M. Richard.
Bon. J'ai manqué une nouvelle avec John, c'est bon. Mais c'est ça, fait qu'eux développent l'appareil, nous on développe tout le système qui va permettre à ces appareils-là d'opérer dans le ciel des métropoles et dans le ciel du Québec.
Ok,
vous avez... ça a une certaine complexité.
J'imagine. Vous avez dit EVTOL. EVTOL, c'est Electric Vertical Takeoff and Landing. Là. C'est
exactement,
Ça va prendre parce que là, je suis d'accord. Moi, je comprends ce que vous dites quand vous dites, on veut pas être associé au terme hélicoptère à cause de la pollution, le bruit, tout ça. Mais là, on parle, le véhicule, ça serait, pour l'instant, ça s'appelle un EVTOL.
Ah oui, un EVTOL.
EVTOL.
Dans le fond, oui, EVTOL.
OK. Puis ça, vous dites que ça va être construit au Québec, là. Ça va être construit à Montréal.
Oui, absolument. Et c'est ce que Jonter Mobilité, dans le fond, ce que je pense que l'industrie semble réaliser présentement, c'est que Jonter Mobilité risque d'être le premier à être certifié, surtout ici au Canada. Pour la simple et bonne raison que c'est des technologies qui existent déjà. Quand on regarde la majorité des concepts présentement qui se développent sur la planète, on a souvent des hélices qui, en bon français, tiltent, donc changent de position, mais ça, ça n'existe pas dans les réglementations. Donc, il faut changer la réglementation avant de pouvoir certifier un appareil. Alors que l'appareil de Joint Air Mobility, c'est dans le fond, c'est un appareil qui a un rotor sur le dessus comme un hélicoptère et des hélices sur des ailes fixes. Donc, c'est des technologies qui existent et qui sont facilement certifiables.
Mais là, ça va vous prendre, vous parlez de terminaux, là, ça va vous prendre des endroits où vous posez?
Oui, absolument. Nous, on pense que pour être intéressant, un réseau de vertiports comme celui-là doit offrir un maximum de destinations à la clientèle. Par exemple, si quelqu'un part de la rive sud de Montréal pour aller au centre-ville de Montréal, pour aller travailler tous les jours, il ne voudra pas s'en aller à un seul endroit puis ensuite utiliser 4 ou 5 autres moyens de transport pour réussir à aller à destination. Donc, il faut multiplier le nombre de vertiports. Pour y arriver, nous, l'approche qu'on a prise, c'est vraiment avec les partenaires en développement immobilier.
Mais là, c'est fou, là, M. Richard, parce que je vous écoute en même temps, là, j'essaie de voir où ça s'en va. Mais là, on parle d'un taxi, on parle de quoi? Une espèce d'Uber là, que tu commandes et là, tu réserves ta place?
Absolument. Absolument. Tout comme Uber avec le téléphone intelligent. On dit, bon, ben, je suis à tel endroit, je suis proche de tel vertiport. J'ai besoin d'un appareil pour aller à telle destination. Avec quelques clics, vous avez la réservation, vous allez au vertiport et l'appareil va vous rejoindre à ce vertiport-là pour vous amener à votre destination.
Et je lisais qu'il y a une autonomie d'à peu près 200 km, là, je ne me trompe pas?
Oui, on est déjà, ça évolue déjà, on est déjà près de 240-250 km en termes d'autonomie.
OK. Puis, est-ce que vous avez prévu, genre, connecter Montréal à Boston, Montréal à New York? Là, je sais que Boston, c'est 500-600 km, New York, c'est plus 600-700. Mais est-ce que ça devient une possibilité?
Ça va devenir éventuellement une possibilité, mais pour l'instant, nous, on préfère commencer à marcher avant de courir, s'assurer d'offrir un service intelligent aux gens d'ici. Et éventuellement, il y a même des modèles hybrides qui peuvent faire jusqu'à 550-600 km, dépendamment de la charge utile à l'intérieur. Donc, il y aura la possibilité de faire des plus longs trajets. Mais on veut vraiment se concentrer pour le départ à offrir un service. Parce qu'il y a déjà des services de transport qui font du Montréal, Boston ou... Ouais. Montréal, Toronto, par exemple, des choses comme ça. Donc,
Vous, votre marché, c'est plus urbain?
Oui, urbain et interurbain. On veut faire aussi des liaisons, des exemples, Montréal-Drummondville, Montréal-Sherbrooke, des espèces de destinations où on est quand même impacté par le trafic quand on veut se déplacer pour des rencontres, des rendez-vous médicaux, des choses comme ça.
En tellement moins de temps, j'imagine aussi?
Absolument, absolument. C'est tout à fait différent d'utilisation de la voiture.
Ouais.
Pour vous donner une idée, si on prend le quartier 10-30 vers le centre-ville de Montréal, en heure de pointe, on est à 45 minutes, 60 minutes. Et en taxi aérien, on est à peu près à 6 ou 7 minutes.
Est-ce que vous pensez vous associer au réseau du REM, ou en tout cas, parce que vous parlez du 10-30, le REM va être là, ça devient comme un espèce de hub pour le transport?
Absolument. Et la notion de hub est intéressante parce que Nous, on n'est pas en train de développer un compétiteur au réseau de transport collectif ou au réseau de transport en commun. C'est vraiment un complémentaire. Parce que, vous savez, la chose principale qu'on va vendre, dans le fond, à notre clientèle, c'est de sauver du temps. Ouais. Et non pas... C'est ça notre marché dans le fond.
OK, si je pars du 10-30 puis je m'en vais dans à Place Ville-Marie, disons, là, ça peut me coûter ouais. combien?
Présentement, ce qu'on a dans les cartons, ça devrait coûter environ 16 à 18 $ pour le leg. Ça, il faut compter 16 à 18 $ qu'il y a 4 personnes dans le e-vitol.
OK.
Sauf que la quantité de gens qu'on est capable de déplacer d'un endroit ou l'autre, on évalue qu'il y aura toujours 2 à 3 personnes minimalement dans l'appareil et espérons-le que l'appareil va être plein. À ce moment-là, le coût pour la clientèle va être beaucoup plus bas.
Ben, c'est vraiment étonnant. Les fils des questions niaiseuses, là, je suis désolé, mais les fils électriques, le vent, en centre urbain, souvent, il y a des tourbillons. Est-ce que vous avez tout prévu ça?
Il y a même des organismes gouvernementaux qui sont en train de travailler sur la mécanique des vents dans les grands centres et avec qui on est en contact parce qu'ils voulaient savoir où exactement on s'enligne pour avoir des vertiports et commencer par là pour faire l'analyse de la mécanique des vents. Mais oui, tout cet univers-là est à tenir en compte. Vous devez aussi vous douter que juste à Montréal, des microclimats, il doit en avoir à peu près 60.
Ah oui.
Donc, les stations météo, savoir exactement où c'est rendu, comment ça se forme, tout est à tenir en compte parce que l'élément principal dans ce type de transport-là, c'est la sécurité.
Alors, 2026, est-ce que c'est un délai réaliste?
Bien, nous, cet enlignement-là, on l'a pris, ça fait déjà 2 ans et on a eu une rencontre stratégique en juin dernier et on a gardé ce target-là. Il faut comprendre que le target de 2026, c'est la certification des appareils de Joint Air Mobility, le Journey.
Okay.
Donc, nous, ce qui nous permettrait de commencer nos opérations quelque part au premier quart, au deuxième quart de 2027.
C'est étonnant. Puis, c'est comme tous les films futuristes. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous, M. Richard, mais tu sais, quand j'avais 10 ans, dans les années 70, on annonçait les voitures volantes. On est en train de s'approcher de ça sérieusement.
Absolument. Moi, je viens de passer tout juste la 50aine, fait que je comprends très bien ce que vous me dites. Dans le temps, nous, on pensait que passé les années 2000, on allait voler en voiture. Force est d'admettre qu'on est seulement 30 ans plus tard.
Bien, ça s'en vient. C'est vraiment intéressant. Vertico Mobilité, vous pouvez lire ça, l'article dans le Maitland qui annonce toutes les grandes idées pour 2023. C'est ici à Montréal. On est capable de faire des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. On a hâte de voir ça, M. Richard.
Et on a hâte, nous autres aussi, on travaille fort.
J'imagine. Yannick Richard, vice-président exécutif de Vertico Mobilité. Merci à vous. Bonne chance.
Merci. Bonne
Cube Radio.